Merci beaucoup, frère Neville. Bonjour, mes amis. C'est un privilège d'être de retour ici au tabernacle encore ce matin pour continuer ce glorieux message que nous nous efforçons d'expliquer, cette 70e semaine de Daniel. Et nous sommes heureux de voir que tant de gens se sont rassemblés ici en cette journée chaude, bien que nous soyons désolés de ne pas avoir assez de place assise. De voir des gens serrés comme ça et debout un peu partout, c'est plutôt incommode. Et comme vous n'êtes pas installé aussi confortablement que vous devriez, alors vous avez plus de mal à comprendre. Mais nous ferons tout ce que nous pourrons pour que ce soit court. Et aujourd'hui, j'espère que vous, si je m'attarde un peu, que vous m'excuserez, parce que c'est maintenant que nous allons mettre le point final à ce message, que nous allons vraiment y mettre le point final. Nous l'avons divisé en trois parties pour nous assurer de bien le saisir. Bien sûr, là, l'auditoire visible sait qu'il ou que ces messages sont enregistrés. Ils sont envoyés partout dans le monde. Pratiquement chaque nation au monde reçoit ces bandes. Et j'aimerais dire à ceux qui écoutent la bande, où que vous soyez, et dans quelque partie du monde que vous soyez, qu'il se peut qu'il y ait des choses là-dedans sur lesquelles vous ne soyez pas d'accord avec moi quant aux enseignements que j'apporte. Mais j'aimerais préciser, frère, que peut-être si vous expliquiez votre façon à vous de le voir, elle serait peut-être différente de ce que moi je crois. Mais ça me ferait plaisir d'écouter ce que vous avez à dire. Et c'est avec cette pensée que j'apporte ces messages qui viennent de la parole de Dieu dans mon cœur. C'est pour l'édification de l'Église, pour toute l'Église, l'Église universelle, l'Église de Christ universelle. Et je crois très certainement que nous vivons au dernier jour. Et je m'efforce d'expliquer ceci, mais toutefois sans chercher à mettre en avant, imposer une idée sur un point ou un autre. Pour autant que je le sache, je n'ai jamais été coupable d'avoir fait ça. Souvent des gens entendent les bandes et ils disent, « Eh bien, je n'ai pas été d'accord avec ça. » Il ne connaît vraiment pas son enseignement. Il ne connaît pas l'Écriture. Eh bien, tout ça, c'est peut-être vrai, voyez. Je n'irai pas dire que ce n'est pas vrai. Mais quant à moi, je l'étudie sans prendre aucune des paroles. Je lis ce que d'autres hommes ont à dire et je les apprécie. Tout ce qu'on peut dire, j'en suis reconnaissant. Ensuite, je vais devant Dieu avec ça. Et je ne bouge pas de là tant que je ne peux pas l'expliquer de la Genèse à l'Apocalypse. Et voir que tout se tient dans la Bible. Et comme ça, je sais que c'est à peu près juste. Et bien sûr, là où c'est vous qui avez raison, c'est seulement un endroit où moi, j'ai dévié. Et peut-être que là où vous avez tort ou raison, c'est là que j'ai dévié, et vice-versa. Alors, nous vous apprécions tous, toutes les braves gens qui sont ici dans l'auditoire ce matin, et les braves gens qui écoutent les bandes. Et nous, tout ce qui est fait, c'est uniquement pour le royaume de Dieu. J'ai beaucoup de très bons amis dans le monde entier que j'aime beaucoup. Et je crois que je vais passer une éternité avec eux. Et dans mon cœur, je ne voudrais vraiment pas séduire ces gens en aucune façon, mais plutôt essayer d'accomplir tout ce que je peux pour les aider. Je me sens comme Salomon quand il a prié en disant qu'il lui soit donné de la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Voilà ma prière sincère. Mes collaborateurs qui sont avec moi ici, autour, je vois frère Mercier et frère Roy Borders et frère Neville et Billy Paul, mon fils, Jean et quelque part ici, et les frères, Teddy et les autres. Je suis reconnaissant pour tous ces gens qui sont là pour m'aider. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, frère Léo, une vision qu'il avait eue. Il avait appelé ça un songe. C'était une nuit, nous venions de faire connaissance. Là, il avait vu un grand pic en forme de pyramide très haut dans les airs. Et j'étais là-haut, quelque part, en train de prêcher. Il est monté pour voir ce qu'il en était. Quand il est arrivé là-haut, au sommet de ce pic, eh bien, il a dit que j'étais plus loin, dans un genre de lumière argentée, ou un genre de plateau en train de prêcher aux gens. Il a attiré mon attention et j'ai regardé vers lui. Il a dit, « Mais comment as-tu fait pour te rendre jusque-là? Comment puis-je me rendre jusque-là? » J'ai dit, « Léo, personne ne peut venir ici. C'est Dieu qui doit amener un homme ici. Toi, tu ne dois pas monter ici. Tu dois descendre témoigner aux gens qui sont en bas, après l'avoir vu, que c'est la vérité, que ça, c'est la vérité. » Léo est donc redescendu pour aller témoigner aux gens. Il y a combien de temps de ça, frère Léo? Plusieurs années, n'est-ce pas? Plusieurs années. Depuis, pour autant que je sache, il l'a fait fidèlement. Il a témoigné aux gens de ce que le ministère vient de Dieu. Et je ne veux pas que ça vienne de moi, là. Si ça vient de moi, alors ce n'est pas bon, parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Vous voyez, il faut que ça vienne de Dieu. Maintenant que je regarde autour, hier après-midi, j'ai serré la main de mon ami, frère West. Je ne l'ai pas encore repéré dans la salle. Oui, maintenant je le vois, ce matin. Savez-vous quelle distance ces gens-là parcourent en voiture pour venir jusqu'ici? Ils font tout le trajet depuis l'Alabama pour être ici le dimanche. Tout ce trajet depuis l'Alabama. Frère Welch Evans, je ne l'ai pas vu dimanche dernier. Quelqu'un m'a dit qu'il est ici aujourd'hui. Ces gens-là, ils font tout le trajet depuis Tifton en Géorgie pour être ici. Et le frère qui est assis ici, ceux qui sont avec lui, il y en a tellement. Frère Palmer de Macon en Géorgie. Et je crois que j'aperçois sœur Angren et les autres au fond. Eux, ils viennent jusque de Memphis dans le Tennessee. Maintenant, pensez-vous, et d'autres qui viennent d'autres endroits. Je viens de rencontrer une dame ici qui vient de très loin, de la Caroline du Sud. Maintenant, pensez-vous que ces gens qui sont ici, en regardant, j'en vois qui viennent de Chicago et de différents endroits, qui font des centaines de milles en voiture, rien que pour assister à la réunion. Et quand ils arrivent, il n'y a pas de place pour s'asseoir. La salle n'est pas climatisée. Il faut rester debout dans un vieux bâtiment surchauffé à s'éponger la sueur, en prenant l'argent de la table des enfants pour pouvoir venir ici écouter le message. Vous voulez me dire qu'il n'y aurait pas, de l'autre côté de cette rivière, quelque part, un endroit où ils iront un de ces jours? Bien sûr que oui. Ça, c'est être fidèle. Ces gens-là sont des gens qui payent leurs dîmes. Non seulement ils viennent, mais ils apportent leurs dîmes et leurs offrandes. Ils les apportent à la maison du Seigneur. Ils essayent de faire ce qui est bien. Que Dieu bénisse abondamment des gens si fidèles. Que la miséricorde et la grâce de Dieu soient avec eux. Je vois mon ami Charlie Cox, les autres qui viennent du sud du Kentucky. Où qu'on regarde, on voit des gens qui viennent de différents endroits. Le jeune homme qui est assis ici, son nom m'échappe. Je l'ai rencontré à Chicago. Mais vous venez d'une école biblique, quelque part loin d'ici, n'est-ce pas? De Springfield, dans le Missouri, l'école biblique des Assemblées de Dieu. Oui, bon, très bien. Vous voyez, ils viennent tout simplement de partout pour se retrouver dans cette petite église de rien du tout. Pensez seulement, il y a environ une trentaine d'années, le matin où j'ai posé la pierre angulaire, j'étais là-bas sur la 7e rue, à une rue d'ici. Je n'étais même pas encore marié, je n'étais qu'un jeune homme. Et j'ai eu une vision où j'ai vu des gens serrés, entassés ici, qui venaient de partout. Et j'étais tellement heureux, debout derrière la chaire. Et c'est là qu'il m'a dit, « Mais ceci n'est pas ton tabernacle. » Et il m'a placé sous les cieux. Vous connaissez le reste de l'histoire. C'est écrit sur la page de la Bible qui est là dans la pierre angulaire. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir, vous. Je ne peux pas, c'est bien peu de seulement dire, « Eh bien, je suis reconnaissant de vous avoir. » Mais je prie pour vous. Je crois en vous. Je crois à l'expérience de Dieu que vous avez. Je ne crois pas qu'un homme ou une femme qu'il ferait des centaines et des centaines de milles en voiture pour venir ici montrer les vêtements qu'il porte. Je ne pense pas qu'il ferait cela. Non, il ne viendrait pas ici rien que pour se faire voir. S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils s'intéressent profondément et sincèrement au salut de leur âme. Ma prière c'est, ô Dieu, aide-moi. Aide-moi à avoir ne serait-ce que la moitié de la sincérité qu'ils ont pour essayer de leur prêcher de tout mon cœur et en m'attendant à Dieu. Le message, vous voyez ce matin, on a dessiné ça ici au tableau. C'est seulement pour expliquer à mesure que j'avancerai, pour tâcher de faire en sorte que vous compreniez ce que j'essaye de dire. Et ces 70 semaines de Daniel, ça a été un grand sujet d'étude. Ça fait 2 jours et 2 nuits, presque, la fin de cette semaine ici, que je passe là-dessus, à essayer de trouver les paroles qui pourraient exprimer la vérité. Ça doit concorder avec le reste de la Bible. Voyez, vous ne pouvez pas simplement le prendre, juste un petit passage de l'Écriture, vous en faire une conception, et puis dire, « Eh bien, voici ce qui est dit ici », et ensuite faire volte-face pour dire, « Eh bien, mais là, elle dit autre chose, qui contredit ceci. » Elle ne peut pas faire ça. Elle doit dire la même chose tout le temps. Sinon, eh bien, alors là, vous êtes dans l'erreur. Et c'est de cette façon-là que j'ai essayé de l'enseigner. En passant, sur les bandes, puisque c'est sur bandes, le plus fort de la critique que je reçois sur les bandes de mes frères à différents endroits du monde, c'est parce que je crois à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que j'enseigne, comme je le fais, que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Mes frères pentecôtistes, évidemment, je sais que votre façon de voir les choses est légaliste. Vous voyez? Et je sais que ça dérange un peu votre façon de voir. Mais voulez-vous, en tant que frère chrétien, voulez-vous y accorder assez de réflexion pour vous agenouiller devant Dieu avec votre Bible et demander à Dieu de vous l'expliquer? Voulez-vous le faire? Voulez-vous, en prenant le point de vue légaliste, essayer de faire le lien de la Genèse à l'Apocalypse? Et la semence du serpent, ça, c'est le plus terrible. Beaucoup de gens n'y croient pas. Seulement, si vous voulez bien lire dans la Genèse, la Bible dit que le serpent a eu une semence. Je mettrai l'inimitié entre la semence du serpent et la semence de la femme. Donc, le serpent a eu une semence. Et si la semence du serpent était spirituelle, alors Jésus n'était pas un homme. Donc, la semence de la femme était spirituelle. Tous les deux ont eu une semence, et l'inimitié est toujours là. Le serpent a eu une semence. Et si vous voulez seulement prendre votre Bible et vraiment vous approcher de Dieu avec beaucoup de respect, je crois que Dieu vous le révélera. Et si vous ne le comprenez pas, je suis à votre disposition, à tout moment, pour faire de mon mieux, pour vous aider, soit par lettre, ou en entretien particulier, ou quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider. Bien sûr, nous sommes conscients que ce n'est pas ça qui sauve un homme, pas plus que ça ne le condamne. Mais tout ce que ça fait, c'est de faire la lumière sur le sujet que nous nous efforçons tant d'amener les gens à voir. Voyez? Tout ce que ça fait, c'est de faire la lumière sur la chose. Maintenant, pour mon auditoire visible, si j'ai dit ça, c'est à cause des bandes. Vous voyez? Ces bandes, elles vont partout. Partout. Maintenant, courbons la tête un instant avant de nous approcher de l'auteur de cette parole. Combien dans l'auditoire sont dans le besoin ce matin? Dites simplement, je suis dans le besoin. Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Que le Seigneur accorde sa bénédiction. Et pour ceux qui entendront la bande, quand vous l'entendrez, que Dieu exauce votre demande. Notre Père Céleste, nous sommes un peuple reconnaissant et pourtant un peuple indigne. Mais nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin parce que nous avons été invités à venir. Jésus a dit, « Si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. » Et nous savons que c'est vrai. Ici, dans l'auditoire, et là-bas, dans le pays où les bandits iront, probablement que des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau vont entendre ceci. Et nous savons, Père, que quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est né d'en haut. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sur nous. Et nous sommes conscients que ce Saint-Esprit est tout-puissant et qu'il peut accomplir pour nous tout ce que nous désirons voir s'accomplir. Alors, Père Céleste, nous te demandons de libérer notre foi à l'égard de cet Esprit, afin qu'il soit en mesure de nous procurer ce matin, pour la gloire du royaume de Dieu, tout ce que nous avons demandé et désiré, que nous soyons guéris de nos maladies et de nos afflictions, et que nous puissions ainsi servir notre Dieu de tout notre être. Ouvre les oreilles de notre intelligence aujourd'hui. Alors que je m'efforce de traiter cette grande question et de l'éclaircir dans la pensée des gens, Maintenant, j'ai noté cela, Seigneur, ici sur papier. Il y a aussi tracé sur le tableau ce schéma, mais je suis totalement incapable de l'expliquer par moi-même. Maintenant, nous faisons appel à toi, le grand maître qui a écrit la parole, qui l'a inspiré, qui l'a donné au prophète Daniel. Et nous te prions d'envoyer l'inspiration ce matin, en ces derniers jours, comme il a dit que le livre serait scellé jusqu'à maintenant, d'ouvrir notre intelligence, et qu'il y ait dans nos cœurs une foi accueillante qui permette à la parole de s'implanter et de prendre vie et de produire dans nos vies les arbres de justice qu'elle est destinée à produire. Que notre foi en Dieu nous procure cela ce matin, car nous nous attendons humblement et nous nous consacrons à toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes reconnaissants pour cette matinée, pour cette occasion merveilleuse qui nous est de nouveau offerte d'ouvrir ces pages de la parole éternelle de Dieu. Maintenant, si je me suis mis en devoir d'essayer d'expliquer ceci, c'est parce que nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse et nous venons de voir les sept âges de l'Église. Ensuite, à la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse, l'Église est enlevée de la terre pour monter dans la gloire. Et j'essaie de tout mon cœur de montrer ceci aux gens. Ils s'attendent à ce qu'il arrive quelque chose qu'ils voient écrit dans le livre de l'Apocalypse, alors que ça ne s'appliquait pas à l'âge de l'Église. Et nous sommes plus près de la fin que vous ne le pensez. Une nuit, il y a quelques jours, ma belle-fille m'a appelé tard dans la nuit pour me dire qu'un homme du nom d'Andy Herman, c'est un de mes cousins, était sur son lit de mort à l'hôpital. Je suis allé le voir, il l'avait drogué, au point qu'il dormait, et que je n'ai pas pu lui parler. Le lendemain matin, j'avais demandé à Dieu de le garder en vie jusqu'à ce que je puisse lui parler. Andy est un brave homme, mais il n'était pas chrétien. Ce n'est pas mon oncle, c'est mon cousin. Il a épousé une de mes cousines. Et quand tante Addie, qui était là, m'a dit, Billy, de toutes ses 80 années de vie, il n'a pas servi Dieu. Mais elle a dit, il y a quelques semaines, il était assis à la maison. À 80 ans, évidemment, il ne fait pas beaucoup de travail physique. Mais elle a dit, il l'a appelé et il a dit, « Eddie, sais-tu quoi? Le Christ vient de m'apparaître ici il y a quelques instants. » Elle a regardé, elle a dit, « Andy, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit, « Non, il était là, debout devant moi. » Et il a dit quelque chose. Elle a dit, « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Il est plus tard que tu ne le penses. » Quelques semaines après, 2 ou 3 semaines, il a eu une attaque et il était paralysé à l'hôpital en train de mourir. J'ai dit, « Tante Addy, tu devrais avoir honte de ne pas m'avoir appelé, moi ou quelqu'un d'autre, pour préparer son cœur à cette heure à laquelle il est arrivé maintenant. » J'ai demandé au Seigneur le lendemain matin comme il ne pouvait pas parler, je lui ai seulement demandé, j'ai dit, « M'entends-tu, oncle Andy ?» Il a réussi à hocher un peu la tête et à remuer la mâchoire. J'ai prié pour lui. Je lui ai fait confesser ses péchés devant Dieu. Je voulais le baptiser, et tante Eddie voulait être baptisé. J'ai traversé le couloir pour aller voir une jeune dame qui est du quartier, ici, et qu'ils allaient envoyer à l'hôpital psychiatrique. Et le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour elle. Elle est rentrée à la maison. Et en chemin, j'ai rencontré une sœur de couleur. Elle a dit, « Vous êtes frère Branham, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « C'est bien ça. » Elle a dit, « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?»« Je suis Madame Dry. » J'ai dit, « Oui, je crois que je me souviens. Pete Dry et les autres. » J'ai dit, « Mais oui, je me souviens de vous. » Elle a regardé dans la chambre et à ce moment-là, je me demandais pourquoi elle avait dit ça. Et là, oncle Andy s'était soulevé dans son lit Il était assis là. Il bougeait les mains et les bras comme tout le monde. Il essayait de baisser le machin du lit, pour sortir de là et s'en aller. Maintenant, ils vont venir se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, lui et son épouse. Alors, mais la raison pour laquelle je vous ai raconté ça, il est plus tard que nous le pensons. Et je crois que ces 70 semaines de Daniel vont nous le faire comprendre. Or, la plupart de nos frères pentecôtistes, comme je le disais tout à l'heure sur la bande, ils ne sont pas d'accord avec ceci. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une grande démonstration de puissance. Eh, mes frères, si vous voulez écouter bien attentivement et ne pas écouter, vous verrez que cette grande démonstration de puissance est déjà passée. Jésus est prêt à revenir. L'Église part au chapitre 3 de l'Apocalypse. Il n'est absolument rien dit là, de rien, mais la toute dernière chose, c'était le dernier messager de l'âge. Après ça, nous parlons des Juifs, jusqu'au retour avec l'épouse au chapitre 19. Du chapitre 6 au chapitre 19, c'est rien que les Juifs. C'est ce que je voudrais montrer à mon cher frère ici, pendant les sauts, à Frère Woods, qui a déjà été témoin de Jéhovah, lui et toute sa famille, ici ce matin, que ces 144 000 n'avaient rien à voir avec les gens des nations. Ce sont des Juifs, voyez. Et que ce n'est pas le corps mystique de Christ sur terre aujourd'hui. C'est l'épouse qui est ce corps mystique. Par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés pour former ce corps mystique. Maintenant, nous savons que c'est dans le livre de Daniel, ici, que nous avons lu, et nous allons simplement le relire parce que c'est sa parole. Au chapitre 9 de Daniel, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Verset 25. Prends donc connaissance et comprends. Depuis, bon, voilà de quoi nous avons parlé, et dimanche soir passé, nous avons terminé par ça, oindre le Saint des Saints. C'est ici que nous commençons ce matin, au verset 25. Et donc, prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, c'est-à-dire ta ville sainte, vous voyez? Jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une grande inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Maintenant, souvenez-vous, là, c'est la fin de la guerre. On l'a mis au tableau ici. Maintenant, nous commençons autre chose. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême de l'abomination jusqu'à ce que la ruine, c'est-à-dire tout, et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Oh, quelle leçon! L'autre jour, je disais à mon épouse, « Je me demande si les gens saisissent réellement. Je veux vraiment que vous saisissiez là. Ne, s'il faut que vous, qu'on reste toute la journée, on va rester. Là, on veut saisir, voyez? On veut savoir que c'est la vérité. Et vous, si seulement vous pouviez le voir. » Et je vais demander, peut-être, et après, je vais laisser le schéma affiché ici, et vous pourrez le recopier après. Venez cet après-midi, quand vous voudrez, et recopiez les schémas et tout. Ça vous aidera à comprendre, c'est pour ça que je l'ai mis là, pour que vous compreniez. Maintenant, récapitulons juste un peu pour avoir une base. Donc, il y avait... Daniel était préoccupé à cause de son peuple.
And understood
En effet, il avait lu le prophète Jérémie et il avait compris que Jérémie avait dit qu'il resterait en captivité pendant 70 ans. Et là, il voyait qu'il y avait déjà 68 ans qu'ils étaient en captivité. Alors il savait que le moment était proche. C'est pourquoi il a mis de côté tout son travail, il a, pour ainsi dire, baissé les rideaux sur toutes ses tâches quotidiennes. Il a tourné sa face vers Dieu, il a revêtu le sac et la cendre, et il s'est mis à jeûner et à prier dans le but de savoir quand ce moment-là allait arriver. Et après, nous voyons, comme je l'ai déjà dit, pourrais-tu tourner ça un peu, de ce côté-là, juste un peu? Le ventilateur tourne un peu trop fort, ça me donne la voix enrouée. Alors, merci frère. Nous voyons donc que Daniel, c'est pour son peuple qu'il voulait avoir cette information. Et je pense que si Daniel, en lisant les prophètes qui étaient venus avant lui, et en comprenant qu'il était près de la fin, il s'est mis à chercher Dieu pour savoir combien la fin était proche. Alors je pense qu'en voyant que nous sommes au bout du chemin maintenant, il est légitime, non pas que nous revêtions le sac et la cendre, mais que nous rejetions les choses du monde et nos soucis de cette vie pour chercher Dieu, afin de voir quel jour de l'année nous sommes, parce que nous voyons que nous sommes à la fin, et pour que l'Église recourt au jeûne et à la prière et se tienne prête. C'est pour ça que je me suis mis en devoir de... Je ne savais pas quelle explication donner à ceci. En effet, je le laissais de côté chaque fois en disant « les 70 semaines de Daniel », parce que je n'arrivais pas à le comprendre. Et c'est pour ça que maintenant, je me suis mis en devoir d'essayer de l'expliquer. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, je vais pouvoir le faire par sa grâce, l'apporter de sorte que vous montrez combien nous sommes proches de la venue du Seigneur. Maintenant, Daniel, il ne lui restait que 2 ans. Et nous voyons que pendant qu'il était en prière, l'ange Gabriel est venu vers lui en vitesse. Et il ne lui a pas seulement expliqué quand son peuple allait sortir de captivité, mais aussi tout ce qui était fixé pour son peuple, tout ce qui allait encore arriver à son peuple. Il a dit, il reste encore 70 semaines pour les Juifs. Et nous voyons qu'il avait 6 buts. L'un d'eux, c'était de faire cesser les transgressions et de mettre fin au péché, d'expier l'iniquité, d'amener la justice éternelle, de sceller la vision et la prophétie, et d'oindre le Saint des Saints. Et dimanche matin passé, nous avons parlé de Daniel alors qu'il était là-bas en prière. Dimanche soir passé, nous avons donné les passages de l'Écriture pour que les gens puissent le lire une fois rentrés chez eux. L'avez-vous lu? Avez-vous aimé ça? Merveilleux. Donc, les 6 buts. Et nous voyons que ce 6e but, oindre le Saint des Saints, nous voyons que le Saint des Saints a toujours représenté l'Église, le tabernacle. Et la dernière chose qui devait se faire, c'était d'oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire le tabernacle du millénium, dans lequel il vivra pendant le millénium, dans lequel nous vivrons. Bon, et aujourd'hui, là, nous abordons que sont les 70 semaines. Et c'est une partie très essentielle, les 70 semaines. Or, nous savons que les Écritures ne peuvent pas mentir. Elles doivent être la vérité. Alors, si cet ange Gabriel est venu dire à Daniel qu'il ne restait que 70 semaines pour les Juifs, bon, nous, on pourrait penser qu'il s'agit de semaines de 6 ou de 7 jours. Seulement, dans une prophétie, c'est toujours donné en parabole. Et alors, sans doute qu'au cours des âges, il y a eu des centaines de personnes, des érudits, des hommes très doués, qui ont essayé d'expliquer ce qu'étaient ces 70 semaines. J'ai lu beaucoup des commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet. Et je suis très reconnaissant à M. Smith de l'Église adventiste pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin de son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces gens très érudits pour leur point de vue sur le sujet. Et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Mais pour exploiter le point de vue que j'ai pensé que j'aimerais exposer, j'ai fait une recherche sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir ce que c'est que le temps. Et nous voyons ici qu'il y a du temps et une moitié de temps. Du temps, qu'est-ce que c'est? Une semaine, qu'est-ce que c'est? Il y a maintenant 3430 ans de ça, depuis que Dieu a commencé à traiter avec les Juifs. Il y a bien des années. Daniel, c'était avant Jésus-Christ à l'époque, c'était en 538 avant Jésus-Christ. 538 ans avant Christ, qu'il a parlé de ceci, du temps et d'une moitié de temps, et 70 semaines. Regardez où il aurait abouti au bout de 70 semaines. Voyons, au bout de 70 semaines, il était toujours à Babylone. Pourtant, Dieu lui avait dit que cette période de temps-là, c'était tout ce qui avait été fixé sur le peuple. Maintenant, ceux de mon Église ici, vous savez qu'au fil des années, je vous ai toujours dit, si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir à quelle époque nous vivons, regardez les Juifs. C'est la seule horloge. Dieu n'a pas compté de temps déterminé pour ceux des nations. Il n'y avait pas de période déterminée. C'est là, à mon avis, que beaucoup de grands auteurs ont confondu les fêtes. Ils essayaient de l'appliquer en même temps aux Juifs et à ceux des nations. Parce qu'il a dit « ton peuple ». Mais c'est à Daniel qu'il s'adressait, pas à l'Église. Le peuple de Daniel, les Juifs. S'il s'était adressé à l'Église, ça ne donnerait rien de juste. Vous retrouveriez bien loin dans le passé, avant même la venue de Christ. Ce serait écoulé, quelles que soient les semaines prophétiques dans lesquelles vous voudriez situer ça. Ce serait déjà écoulé. Mais c'est aux Juifs qu'il s'adressait. Donc, l'horloge de Dieu, c'est les Juifs. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, ici, quand frère Argenbright de la Californie, le vice-président de l'Association internationale des hommes d'affaires du plein évangile, est venu chez moi et qu'il m'a apporté une bande, et pas une bande, mais un film, qu'il « Minuit moins 3 ». Il avait été tourné comme documentaire scientifique. Quand j'ai vu ces Juifs qui rentraient, qui retournaient à Jérusalem, je suis venu ici au tabernacle et j'ai dit « J'ai l'impression d'avoir eu une reconversion ». Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. J'ai dit « De voir ces Juifs qui retournent ». Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 24, « Quand vous voyez le figuier pousser ses bourgeons, vous savez à quoi vous attendre. Vous voyez, quand les Juifs retournent. » Bon, j'ai noté quelques observations ici. J'aimerais m'y référer. Bon, là je vais prendre mon temps pour que vous aussi vous puissiez les noter. Maintenant, tout ça, ça arrive, c'est... Maintenant, nous, la période de temps où nous sommes maintenant, tout ça, ça arrive au... Il s'agit des Juifs. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Église. Tout ce qu'il y a du chapitre 3 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 19, ça n'a absolument rien à voir avec l'Église. Vous n'arriveriez à rien de juste comme ça. Elle n'est pas là du tout. Maintenant, je voudrais expliquer comment j'ai trouvé ceci. Là, au tableau, beaucoup d'entre vous allez voir que j'ai dessiné des périodes de temps espacées pour montrer comment ça se situe dans l'espace, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Est-ce que vous ne devez pas voir au fond, j'imagine, c'est écrit trop petit. C'est l'écriture de Becky, j'ai pensé. Et le dessin, j'en avais fait un qui était pire que celui-là, mais c'est Becky qui a fait ce dessin de la statue du songe de Nebuchadnezzar. Et Becky, moi je trouve que ça ressemble plus à une fille qu'à un homme. Mais de toute façon, ça va nous donner l'information, ce qu'il nous faut. Bon, donc si nous lisons dans la Bible que 70 semaines ont été fixées sur le peuple. Or, ça n'a rien à voir avec l'Église. Les 70 semaines n'ont rien à voir avec l'Église. Si vous remarquez ici, sur le schéma, j'ai inséré l'âge de l'Église entre les 70 semaines. On l'a ici. Un frère de la Géorgie a dessiné ça pour nous, ici, quand on a fait l'étude des âges de l'Église. Et bien sûr que nous pouvons comprendre ce que ça veut dire. Le blanc dans l'Église, ici, ça veut dire que c'était apostolique partout. Après, au deuxième âge de l'Église, ils ont eu la doctrine des Nicolaïtes. Ou ils ont eu les œuvres des Nicolaïtes. Ce n'était pas encore devenu une doctrine. Au troisième âge de l'Église, c'est devenu une doctrine. Et au quatrième âge de l'Église, ils en ont fait une organisation. Et il y a eu la papauté romaine. Et au quatrième âge de l'Église, c'était l'âge des ténèbres. Si vous remarquez, toute cette partie sombre là, ça représente le nicolaïsme ou le romanisme. La partie blanche représente le Saint-Esprit, l'Église. À ses débuts, à l'époque de Saint Paul, toute l'Église apostolique au complet était remplie du Saint-Esprit. Ensuite, les aristocrates ont commencé à entrer. Et ils ont fini par s'unir, et ils ont formé une Église complètement nouvelle avec ça. Et la petite Église qui restait, on les a brûlées, lapidées, données en pâture aux lions et tout. À la Réforme, Luther est arrivé, un peu plus de lumière, vous voyez. Avec les jours de Wesley, il y a eu encore un peu plus de lumière. Mais au dernier âge de l'Église, ici, l'âge de l'Église nicolaïte, c'est l'âge où nous, non pas l'âge nicolaïte, mais l'âge de Laodicée, c'est l'âge où nous vivons. Si vous remarquez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Quelqu'un, en voyant le dessin accroché là, disait, « Vous devriez avoir honte, frère Branham, ce grand jour de lumière. » J'ai dit, « J'imagine qu'une fois le tri fait, c'est encore au-dessous de la réalité. » Quand on prend ceux qui ont vraiment le cœur pur, qui sont nés de nouveau de l'Esprit, souvenez-vous, cet âge-ci, de tous les âges, c'est le seul où Christ a été expulsé de sa propre Église. On a une grande confession, mais est-ce qu'on a une possession? Voilà la question. Christ est-il réellement dans l'Église? Ce sera vraiment une minorité. Bon, maintenant, situons les 70 semaines de Daniel. Maintenant, je vais encore répéter ceci. Ministre de l'Évangile, si vous n'êtes pas d'accord avec ceci, c'est en ordre. Elle se divise en trois périodes, comme nous le voyons dans Daniel 9. Trois périodes. D'abord, une période de 7 semaines, ensuite une de 62, c'est-à-dire 62, et ensuite une période d'une semaine. Elle se divise en trois périodes différentes. Maintenant, j'ai tracé les divisions ici au tableau. La première période, la deuxième période, et d'après la façon dont je le comprends par l'Évangile, par le Saint-Esprit, au temps de la fin, Dieu revient de nouveau aux Juifs. Or, nous savons par tous les évangiles que Paul et les autres ont enseigné que Dieu va revenir de nouveau aux Juifs. Eh bien, alors, s'il doit revenir de nouveau aux Juifs, comment pouvons-nous appliquer ça au temps de Daniel? C'est maintenant, au dernier âge, qu'il faut l'appliquer. Et ça arrive après le départ de l'Église des nations. Parce qu'il traite avec Israël en tant que nation et avec nous en tant qu'individus. Maintenant, j'ai quelques notes ici que j'aimerais vous lire à mesure que nous avancerons. Donc, la promulgation de la parole disant de reconstruire Jérusalem. Ça eut lieu le 14 mars. Si certains d'entre vous veulent le noter, en hébreu, vous verrez que c'est le mot N-I-S-A-N, Nissan, qui veut dire mars. L'ordre a été émis le 14e jour de mars, de l'an 445 avant Jésus-Christ, l'ordre a été émis de construire, de reconstruire le temple. Vous avez lu les Écritures, alors vous comprenez ça. Jusqu'à ce que ce soit terminé, il a fallu 49 ans pour terminer le temple et la ville, les reconstruire. Et il est dit ici dans la Bible, c'est Daniel qui parle, où l'ange qui parle à Daniel, les murailles, et se seraient rétablies en des temps d'angoisse. Et beaucoup d'entre nous, nous nous en souvenons, au moment de la construction, ils tenaient d'une main la truelle et de l'autre l'épée, pour guetter l'ennemi. Et se seraient rétablies en des temps d'angoisse. Alors voici comment j'en suis arrivé à ça, comment j'ai trouvé ce qu'il en était des jours. Bon, on a deux, trois calendriers différents. Si on reprend l'ancien calendrier astronomique, alors on voit que dans le calendrier julien, il y a 365 jours écart par année. Ils ont calculé ça avec le passage de Sardes et des autres étoiles et tout. Ils ont calculé ça. Et on voit que dans le calendrier romain, qui est utilisé actuellement, il y a 365 jours par année, d'après ce calendrier. Mais dans le calendrier chrétien ou prophétique, on voit qu'il n'y a que 360 jours par année. Maintenant, vous vous demandez peut-être d'où vient cette confusion. Maintenant, ce que je vais dire ici, je peux seulement le dire de moi-même. Je crois qu'il y a longtemps, avant la destruction antédiluvienne, à l'époque de Job et tout, ils comptaient le temps en suivant les étoiles. Et nous comprenons, ou avant cette époque-là, que la terre était droite. Ensuite, à cause du péché de l'homme, la terre a été renversée, elle a été déviée de son axe, et il y a eu le déluge. C'est pour cette raison qu'on a les grands glaciers et tout, et que le sommet et le dessous de la terre sont tous recouverts de glace, nous le savons. Et la terre n'est pas droite, elle est inclinée. La secousse lui a fait perdre sa position d'où ils observaient la lune et les étoiles. À ce moment-là, c'était déplacé. Ou on ne pouvait plus s'y fier pour calculer le temps, parce qu'elle penche d'un côté, elle est inclinée. Alors, on ne tombe pas face aux étoiles en même temps, parce qu'elle est de travers par rapport aux étoiles. Vous comprenez? Je crois que c'est comme ça. Elle se retrouve dans cet état-là, inclinée. Et tout ce que ça montre, c'est que maintenant, c'est seulement une période dans le temps. Ne voyez-vous pas? Dieu ne peut pas avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que c'est ça qui est arrivé. Et c'est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'Église. Il ne l'a pas fait auparavant. Et s'il ne l'a pas fait, c'est pour que l'Église continue à veiller et à prier tout le temps, en ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais vous vous souvenez, dans Daniel 12, il a dit, « Le sage comprendra en ce dernier jour. » Voyez, cela lui a été donné. L'esprit de sagesse entre dans l'Église pour faire connaître à l'Église, par la révélation du Saint-Esprit, il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? Or, c'est ce qui élimine l'année astronomique, ou l'année, le calendrier julien, vous voyez, l'année maçonnique. Le fait que la Terre soit inclinée, on a tous appris ça à l'école, elle est déplacée. Donc, les étoiles, elles ne s'alignent pas avec la Terre au même moment. Donc, le calendrier romain, lui aussi, il est inexact, parce qu'on ne peut pas aligner les jours. Je pourrais vraiment dire bien des choses ici. C'est que nous voyons, et la nature elle-même nous l'enseigne, qu'il y a exactement 30 jours, pas plus, dans une année. Maintenant, prenons l'Apocalypse, où nous allons devoir aller là au jour des deux prophètes. La Bible dit qu'ils ont prophétisé pendant 1260 jours. Or, si vous preniez le calendrier astronomique, ce serait bien loin de faire 3 ans et demi. Et si vous preniez le calendrier romain qu'on a aujourd'hui, ce serait bien loin du compte. Mais prenez le calendrier prophétique, et il y a exactement 1260 jours, en comptant 30 jours par mois. Voyez, nous, on a 30 jours à certains mois, 31 le mois d'après, parfois 28. Voyez-vous, nous, c'est tout mélangé. Mais avec Dieu, ce n'est pas clopin, clopant, en haut, en bas, à gauche, à droite. Avec lui, c'est toujours pareil. Oui, monsieur. Toujours pareil. 30 jours par mois. Pas 31, après ça 30 ou autre chose. Voyez, mais tout cela a été fait selon le grand plan de Dieu, pour que l'Église continue à veiller et à prier, qu'elle se tienne prête, que vos vêtements soient lavés dans le sang de l'agneau. Mais, oh, en ces derniers jours, il a promis. Oui, maintenant nous voyons où nous vivons. Or, souvenez-vous, le but, le seul but, c'était pour ça. Bon, donc, s'il y avait 7, regardez, il y a eu exactement 49 jours, 49 ans plutôt, pour la durée de la construction du temple. Les 7 semaines, ce sont 7 semaines prophétiques, 7 semaines, parce que 7 semaines avaient été fixées pour le temple, pour que le temple soit reconstruit. Et il a été construit en 49 ans exactement. Maintenant, nous avons la signification du temps des semaines. Parce que si la Bible a dit, si l'ange a dit qu'il faudrait 7 semaines pour la construction du temple, et qu'il a fallu exactement 49 ans pour la construction du temple, du 14 mars jusqu'en 538 avant Jésus-Christ, pour que le temple soit reconstruit et que les rues soient rétablies, exactement 49 ans. Alors, qu'est-ce que nous en comprenons? Qu'est-ce que nous en comprenons? Alors, si 7 semaines, ça représente 49 ans, alors une semaine égale 7 ans. Et 7 fois 7 font 49. C'est exactement ça. Voilà. Donc maintenant, on n'en est plus aux hypothèses. Maintenant, nous savons que chaque semaine signifiait 7 ans. Vous avez saisi? Disons-le tous ensemble. Une semaine égale 7 ans. Maintenant, nous savons que nous avons saisi. Une semaine égale 7 ans. Alors, nous voilà ici la première semaine. 49 ans pour que le temple soit reconstruit. La ligne du haut qui passe, là, ça représente la nation juive. C'est tout simplement le temps. Et quand ça descend, là, c'est qu'on passe de la nation juive pour entrer dans le temps des nations. Ensuite, ça remonte pour reprendre Israël et ça continue. Or, ceux des nations, il n'y a pas eu de temps fixé pour eux. Il est seulement dit le temps des nations. Nous voyons que même Jésus n'a pas fixé de temps pour eux. En effet, nous voyons ici dans Luc 21-24 qu'il a dit « Ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem jusqu'à ce que les nations... » Je vais vous le citer. Je le citais seulement de mémoire. Je vais vous le lire parce que ça va être sur bande là. Et nous voulons être bien sûrs de le dire comme il faut. Très bien. Si vous voulez le prendre avec moi dans Luc 21-24. J'ai étudié ça du mieux que j'ai pu pour que ce soit clair. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés. De qui parle-t-il? Des Juifs. C'était la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Souvenez-vous-en, là, pas seulement à Babylone, pas seulement à Rome, mais dans toutes les nations. C'est là que les Juifs sont aujourd'hui, dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Voyez, c'est un mystère. Voyez-vous, le temps des nations. Mais les Juifs, donc, nous ne pouvons pas connaître le temps en regardant l'Église. Si elle a rétrogradé, ou si elle avance, ou par ce qu'elle fait, on ne peut pas savoir par là. Mais regardez les Juifs, le voilà, le calendrier du temps. Vous voyez, à eux, Dieu leur a fixé un jour, une heure et un temps bien précis. Mais il ne l'a jamais fait pour les gens des nations. Il l'a fait pour les Juifs, donc observons les Juifs, et alors nous saurons où nous en sommes. Bon, donc les 7 semaines, c'était 49 ans. Maintenant, nous avons bien compris qu'une semaine, c'est... Une semaine, c'est 7 ans. Une semaine, 7 ans. Maintenant, il nous est dit que depuis la promulgation de la parole... Maintenant, c'est ici que les choses se corsent. Maintenant, il nous est dit, depuis la promulgation de la parole, disant de reconstruire la ville jusqu'au Messie... Et le Messie, c'était Christ, bien sûr. Il y a 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Voyez? Bien. Et 7 fois 69, ça fait 483 ans. Maintenant, est-ce que vous notez? Si vous voulez que je reprenne, je le ferai volontiers. Donc, il nous est dit que depuis la promulgation de la parole, disant de reconstruire la ville jusqu'au Messie, il y a 7. 7, ça, c'est la première ici. 7 semaines et 62, ça fait 62 plus 7, ça fait 69. 69 semaines. 7 fois 69, ça ferait 483 ans. Par conséquent, jusqu'au Messie, maintenant, nous en arrivons à cette partie-ci. Jusqu'au Messie, il doit y avoir 483 ans. 483 ans. Or Jésus, le Messie, il est entré dans la ville de Jérusalem en triomphe, monté sur une mule blanche, le dimanche des Rameaux, 2 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Jésus est entré dans Jérusalem le dimanche des Rameaux de l'an 30 après Jésus-Christ. Et maintenant de 445 avant Jésus-Christ à 30 après Jésus-Christ, il y a exactement 475 ans. Mais, comme nous l'avons déjà vu, les 69 semaines, ça donne 483 ans. Bon, c'est là que les choses se corsent, en plein là. Voyez, nous avons seulement, si on se fie à ce qui est inscrit dans la Bible, ici, le temps, seulement 475 ans. Alors qu'en fait, c'est 483 ans. Il y a un écart de 8 ans. Or, avec Dieu, ça ne peut pas manquer le but. S'il a dit qu'il y aurait un certain nombre de jours, c'est ce nombre de jours-là. S'il dit jusque-là, c'est jusque-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, les années de 475 avant Jésus-Christ à 30 après Jésus-Christ, ce sont des années juliennes ou astronomiques qui comptent 365 jours écart chacune. Mais quand on réduit ces jours à notre calendrier prophétique, maintenant, je vais m'arrêter ici un instant. Puissiez savoir sans l'ombre d'un doute, je ne me suis pas contenté de ce seul passage-là. Je peux le prendre à travers la totalité des Écritures et vous prouver que 7 jours sont, que 7, qu'une semaine, c'est 7 ans. Je viens de le faire en prenant Apocalypse chapitre 13 ou chapitre 11 et verset 3. Ces prophètes prophétiseront pendant 1260 jours, ce qui est au milieu de la dernière semaine des Juifs. Après ça, ils sont retranchés et c'est Armageddon. Alors, si c'est bien le cas, encore là, ça fait exactement 30 jours par mois. Voyez, alors, ce n'est pas du tout 31 jours et 28 jours et ainsi de suite. C'est exactement 30 jours par mois, chaque fois. Notre calendrier prophétique nous ramène à 360 jours, celui que nous utilisons en ce moment à travers les Écritures. Ce qui nous donne exactement 483. Voilà, 483. Voilà tout à fait la preuve de la prophétie. Exactement la vérité. En effet, depuis le moment de l'annonce de construire le temple jusqu'à la destruction, quand ils ont rejeté Christ et qu'ils l'ont mis à mort en l'an 33 de notre ère, quand Christ a été mis à mort, ça fait exactement 483 ans. Or, depuis la promulgation de la parole disant de reconstruire Jérusalem, 7 semaines ont été fixées pour ça, c'est-à-dire 49 ans. Et ça a pris exactement 49 ans. Eh bien, de la reconstruction du temple au Messie, il y a eu 438 ans. Donc, 434 ans. Et 434 fois 49, ça fait exactement 483 ans. Ça donne en plein dans le mille, au jour près, d'une date à l'autre. Amen. Voilà. Le Messie, le Prince, viendra. Voyez, 7 fois 69, ça fait 484 ans, en plein dans le mille exactement. Alors, nous savons donc parfaitement, nous savons avec exactitude que ce passage de l'Écriture est juste. Voilà ce qu'il en est. Mais vous voyez, tous ces... Quand Dieu a détruit le monde antédiluvien par l'eau et qu'il a changé la date astronomique et ensuite il a laissé les Romains venir fabriquer leur calendrier à eux. Et celui-là, il est bon un coup, puis il saute un coup et ainsi de suite. Je pense que même dans l'encyclopédie que j'ai consultée, et en passant, frère Kenny Collins, est-ce qu'il est dans la salle ce matin? Kenneth Collins? Tu sais, quand tu m'as envoyé tous ces volumes, l'encyclopédie, tu te souviens de ça? Tu m'en avais presque envoyé un camion rempli. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'un bé jaune comme moi va bien pouvoir faire avec tout ça? Tu sais, c'est le Seigneur qui te conduisait, Kenny. C'est là que j'ai trouvé les renseignements, là, dans cette vieille encyclopédie. Le temps. J'étudiais ça, et Becky, elle les utilise pour l'école. Je les ai mis dans mon bureau, en bas, dans mon cabinet de travail. Alors, on est descendu, on l'a sorti, et on a cherché ça, et on l'a trouvé exactement, dans tous les calendriers, et tous les temps qu'il y a jamais eu. Voyez? Alors, on a trouvé ça. Voilà, c'est exactement ça, 483 ans depuis la promulgation de la parole disant de rétablir la construction jusqu'au temps où le prince, le Messie, a été rejeté, ça fait exactement 483 ans d'après le calendrier. Maintenant, vous voyez, nous utilisons ce même calendrier de ce côté-ci aussi. En effet, si Dieu a utilisé ce calendrier à ce moment-là, alors il doit l'utiliser tout le temps dans la Bible. Pas vrai? Dieu ne change pas. Donc, si cette semaine, c'était 49 ans, cette semaine, c'est encore 49 ans. Une semaine, c'est 7 ans, voyez-vous? Alors, c'est absolument parfait. Et si ça a donné en plein dans le mille à ce moment-là, ça va donner en plein dans le mille de nouveau. Amen. Oh là là, ça me remplit d'enthousiasme. Oh, j'aime savoir de quoi je parle. J'aime ça, en effet. C'est comme ce vieux monsieur qui me disait là-bas dans le Kentucky. Il disait, « J'aime entendre parler quelqu'un qui sait de quoi il parle. » J'ai dit, « Moi aussi. » Il a dit, « C'est ça le problème avec vous, les prédicateurs. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Eh bien, j'ai dit, « Je vous remercie du compliment. » Mais pour certaines choses, nous savons de quoi nous parlons. Oui, c'est vrai. Je sais que je suis né de nouveau. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Je sais qu'il y a un Dieu parce que je lui ai parlé. Il a parlé à travers moi, il a parlé avec moi, il a parlé à d'autres, il m'a dit des choses sur d'autres personnes, et je sais qu'il est Dieu. C'est vrai. Il a eu la gentillesse de descendre et de se laisser photographier avec moi. Et ça, le monde de la science ne peut pas le nier. Et j'ai pris l'Écriture et j'ai vu que ceci, ça accomplit exactement cet âge de l'Église, ce qui arrive exactement. Alors je sais qu'on en est là. Amen. Bon, nous ne sommes peut-être pas instruits, nous ne sommes peut-être pas des gens très pompeux et tout, nous ne sommes peut-être pas des dignitaires, mais ce qu'il y a, c'est que nous connaissons Dieu. Nous le connaissons parce qu'il y a un Saint-Esprit, voyez-vous, et que ça concorde, parole sur parole, à travers toute l'Écriture. Alors nous savons que c'est vrai. Nous vivons au dernier jour. Maintenant, là, maintenant, souvenez-vous que cette année prophétique, elle compte 360 jours par année. Regardez tout le reste. La nature, si certains d'entre vous peuvent le comprendre, même pour les femmes et tout, voyez? 30 jours, tout simplement, voyez-vous, c'est toute la nature est disposée comme ça, voyez? Pas 31, 30, 28 ou autre chose. C'est exactement 30 jours pour chaque année. Ça, c'est le calendrier prophétique, exactement 483 jours. Nous avons là la preuve formelle de la prophétie. 445 ans avant, c'était tout à fait juste. Or, tout ce qui était prophétisé devait se produire, et ces 70 semaines, elles ne se sont pas accomplies à ce moment-là. Alors cela reste à venir dans les derniers jours maintenant. Maintenant, mes frères pentecôtistes, maintenant, mes frères témoins de Jéhovah, vous rendez-vous compte? Savez-vous où les 144 000 sont apparus? Savez-vous où tous les glorieux miracles de l'Apocalypse sont apparus? Dans l'âge des Juifs, pas dans le nôtre. Quant à celui-ci, il n'y a rien de mentionné là-dessus, rien que l'Église qui se prépare et qui part. Bien sûr, avec la puissance de Dieu, nous faisons des miracles et des prouesses, ça nous le savons. Mais la vraie chose, c'est du côté des Juifs, là. Je veux dire la vraie puissance agissante qui opère des miracles. Les 144 000 n'apparaissent pas là. Eux, ils sont dans... Ce n'est pas au chapitre 3 qu'ils apparaissent. Ils sont plus loin dans les Écritures, après. Et maintenant, nous voyons que toutes ces choses qui devaient arriver, c'était au cours de cette période de la 70e semaine, la dernière semaine. Or, s'ils ont déjà eu 69 semaines et qu'ils les ont vécues exactement telles que Dieu l'avait dit, et que c'est arrivé exactement tel que Dieu l'avait dit, alors il reste une semaine promise pour les Juifs. Maintenant, frères, préparez-vous. Voyez? Voyez? Écoutez, et vous allez voir comme nous en sommes proches. La dernière semaine, la septième année. Maintenant, est-ce que tout le monde comprend jusqu'ici? Si vous comprenez, tout le monde comprend jusqu'ici que c'est parfaitement la vérité, c'est la Bible. Ce sont les années prophétiques. Nous sommes arrivés jusque-là maintenant. Nous les avons suivies jusqu'au moment où le Messie a été rejeté. Vous voyez? Jusqu'au moment où le Messie a été rejeté, la dernière semaine. Bon, je voudrais m'arrêter juste un instant pour expliquer ceci. Là, quand ils ont rejeté le Messie, bien sûr, c'est quand ils ont rejeté Jésus comme sauveur et qu'ils l'ont crucifié. Vous vous souvenez de ce que la Bible dit ici? Et il sera retranché, mais pas pour lui-même, le Messie, le Prince. Pensez seulement avec quelle précision cette prophétie s'est accomplie. Je veux vraiment vous faire entrer ça dans la tête, que si cette prophétie est arrivée à la date pile, au moment pile, exactement de la façon dont elle avait été annoncée, cette autre, septième, cette semaine qui reste, ou plutôt ce sept ans, sept jours, sept ans, arrivera exactement conformément à l'Écriture. Maintenant, souvenez-vous, il a été retranché, le Messie. Les Juifs, Dieu a cessé de traiter avec eux. Ils ne sont pas allés plus loin. Alors, ils ont été dispersés par l'Empire romain. Et puis, si vous remarquez ici, sur mon schéma, je voudrais que vous le compreniez, là, et que vous le recopiez. Vous remarquez, ici, où j'ai mis la croix? C'est là qu'ils ont rejeté. Mais le temps s'est prolongé un petit peu plus loin, là, vous voyez? Pourquoi? 30, 40, 50, 60, 70. 40 ans plus tard, Titus, le général romain, a détruit Israël, Jérusalem, et il a dispersé le peuple dans le monde entier. Vous voyez, 40 ans plus tard, Titus. Donc, en fait, le temps des Juifs s'est prolongé jusqu'à l'entière. Dieu ne traitait plus avec eux. Il a seulement traité avec eux jusqu'à ce qu'ils rejettent Christ. Alors, quand ils ont crucifié Christ, ils se sont écriés, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Et c'est ce qui s'est passé depuis ce jour-là. Mais avant qu'ils soient dispersés, écoutez, oh frère, avant qu'ils soient tous dispersés dans le monde entier, Dieu a mis une quarantaine d'années à détruire le temple et à les disperser dans le monde entier. Mais Dieu n'a plus du tout traité avec eux. Dieu n'a plus du tout traité avec eux. Il s'est mis à traiter avec les gens des nations. Vous savez ça, vous le comprenez maintenant? Donc ici, on commence les âges de l'Église, le temps des nations, Dieu qui n'est plus avec les Juifs. Maintenant, mon frère missionnaire, chez les Juifs, un cher précieux frère qui est quelque part ici, voilà ce que je voudrais que vous saisissiez et compreniez. Voyez-vous, Dieu a tout de suite cessé de traiter avec les Juifs, parce que Dieu traite toujours avec Israël en tant que nation. Nous savons tout ça. Israël est une nation. Quant à ceux des nations, eux, ils sont un peuple. Il a dû faire sortir du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Nous allons voir ça dans quelques instants. Mais maintenant, ces sept âges de l'Église dont nous avons fait l'étude, le temps des nations, de la crucifixion de Christ jusqu'à la fin des âges de l'Église. Maintenant ça, nous l'avons vu, nous l'avons étudié d'un bout à l'autre. Maintenant, nous en arrivons au point où nous pouvons aborder les sept sceaux, les sept coupes, les sept trompettes. Et tout ça, avoir une vue d'ensemble, tout ce qui a trait aux Juifs et au jugement que Dieu exercera sur les gens qui sont sur la terre. Et le reste, souvenez-vous, pendant cette grande période de persécution, il y aura des millions de gens des nations qui mourront. Cette épouse rejetée, ce reste de la postérité de la femme, la Vierge endormie, elle passe par là. C'est aussi clair que les 70 semaines, aussi clair. Elles vont passer par là. Alors, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous faites mieux d'aller le chercher aussi vite que possible. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, remarquez, sept âges de l'Église. Là, je n'aurai pas besoin d'entrer là-dedans, parce qu'on les a sur bande, et ils sont en train d'être mis sous forme de livres, et tout. Il s'agit là du temps pour lequel Dieu n'a jamais dit qu'il y aurait tant de jours, tant d'heures ou tant d'années. Il n'a jamais rien dit. Il a dit « jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée ». Il a dit « jusqu'à ». Les murailles seraient foulées aux pieds jusqu'à ce que Dieu ait cessé de traiter avec les nations. Or, nous voyons que tout au long de ces âges, on a eu le Saint-Esprit qui est venu. Et Dieu, au commencement, avait commencé à annoncer quand Christ a été rejeté. Dieu a montré à Jean exactement ce qui allait arriver pendant le règne des nations. Alors, vous voyez, nous n'avons pas de temps précis fixé comme les Juifs, mais nous avons une indication. Nous avons un poteau indicateur. Eh bien, avec les Juifs, Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait pendant ses 69 ans, ou c'était 483 ans, mais 69 semaines. Et il reste une semaine, il y a encore une semaine de fixée. Or, nous ne pouvons pas la placer dans l'espace qu'il y a ici, parce qu'ici, c'est les nations, l'Église. Bon, combien comprennent ça? Donc ici, c'est Apocalypse, en commençant au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, où on se retrouve dans la Odyssée. Maintenant, nous voyons très précisément que tout ça, c'était l'Église, le monde de l'Église lui-même. Dieu n'a jamais inclus le pécheur. Lui, il, à moins qu'il veuille être sauvé. Mais le monde de l'Église était entièrement blanc. Après ça sont venus les Nicolaïtes qui ont voulu former une organisation. Les dignitaires sont entrés. Ça, c'était à Nicée, Rome, quand ils ont tenu le concile de Nicée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé l'Église et là, ils se sont mis à persécuter les chrétiens. Ensuite, dans l'âge de l'Église suivant, le christianisme, quant au baptême du Saint-Esprit, a été presque complètement éliminé. Mais voilà, vous, ici, vous le savez, je suis allé consulter l'histoire. Les pères à Nicée, les pères avant Nicée, et toutes les histoires de l'Église, et le manuscrit le plus ancien que j'ai pu trouver. Et chacun d'eux vous a prouvé que l'Église dont Dieu parlait n'était pas cette Église catholique organisée, ni aucune autre organisation. Ce dont Dieu parlait, et toutes ces grandes étoiles de l'âge, c'était des hommes qui enseignaient le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus-Christ, et la venue de l'Esprit de Dieu. Et le parler en langue, et l'interprétation des langues, et la guérison, les miracles et les signes. C'est ça que Dieu donne. Il ne peut pas changer d'avis, dire, eh bien, voilà mon idée d'une église, l'église apostolique. Et maintenant, mon idée est une église de dignitaires. Dieu ne change pas. C'est toujours le Saint-Esprit. Et nous observons ça et nous l'apportons, alors que nous voyons la nature de Dieu et ce qu'il... Et ensuite, nous montrons son Écriture. Et ensuite, nous prenons la l'histoire qui montre que c'est arrivé exactement tel quel, au jour pile, au moment pile. Tout ce que Dieu avait annoncé à travers Jean, c'est arrivé à cet âge des nations. Maintenant, nous nous trouvons sans l'ombre d'un doute dans l'âge de Laodicée. Nous savons que nous y sommes. Nous avons passé par l'âge de Luther, nous avons passé par l'âge de Wesley, maintenant nous sommes dans l'âge de Laodicée, le dernier âge. Et nous comprenons que chacune de ces églises avait un messager. Nous avons vu ça. Les sept étoiles dans sa main qui étaient sept esprits qui sont sortis devant Dieu. Chacune avait un messager. Et nous avons continué et nous avons trouvé par la Bible ce que serait la nature de ce messager. Quelle nature aurait ce messager? Et nous sommes allés trouver quel homme dans l'histoire avait cette nature. Or, une fois que nous avons trouvé l'homme qui, dans l'histoire, avait cette nature, voilà que nous avons vu que c'était lui le messager pour cet âge de l'Église-là. Alors nous avons vu quel esprit et ce que cet homme a fait. Et nous avons vu qu'il était un saint rempli du Saint-Esprit. Saint Irénée et tous les autres, et Saint Colomba, et tous ces hommes remplis de l'Esprit. Et nous savons par l'Écriture que cette sorte d'esprit-là devait être sur cette sorte d'homme-là pour ce temps-là. Et c'est ça. Donc, ça ne peut pas être faux. Gloire à Dieu. Ça, je ne sais pas, frère. Ça me fait plus d'effet que n'importe quoi d'autre. Voyez-vous? Parce que c'est la parole de Dieu qui parle elle-même. Quand j'entends Dieu dire quelque chose, je dis « Amen, c'est vrai, c'est exact ». Voyez, ça règle la question, c'est terminé, Dieu l'a dit. Avec ça, c'est réglé. Eh bien, Dieu a dit que ça se passerait de cette façon, et nous l'avons retrouvé dans l'histoire et par l'Écriture. Nous lisions au sujet de cet âge de l'Église, ce qu'il ferait, ce qui se passerait, quel genre de messager il y aurait pour cet âge de l'Église-là. À l'ange de l'Église de Laodicée, à l'ange de l'Église de Sardes, Thyatire, tous ceux-là, et nous retournions dans l'histoire pour trouver le messager de cette Église-là. Et nous trouvions qui c'était. Et alors, nous l'avons dessiné, mis leur nom dessous, et les voilà. Vous voyez, nous savons que ça, c'était en plein dans le mille. Et nous savons que Dieu était, a toujours été, et depuis toujours, qu'il est contre la religion organisée. Oui, monsieur. Il l'a dit, les Nicolaïtes, ce que je hais. Nikao veut dire conquérir les laïcs. Les laïcs, c'est l'Église, le corps. Nikao veut dire conquérir, vaincre. Autrement dit, faire un saint homme, quelqu'un de supérieur à un autre. Nous sommes tous des enfants. Nous avons un seul roi, c'est Dieu. Nous avons un seul saint, et c'est Dieu. Amen. Dieu de nous sous la forme du Saint-Esprit. Voilà celui qui est saint. Maintenant, nous en arrivons donc à la certitude, en suivant l'âge des Juifs, que nous avons trouvé précisément ces 69 semaines, en nous référant à l'histoire, au calendrier, à l'année prophétique de Dieu. Nous avons suivi l'histoire du calendrier prophétique de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, et nous avons montré qu'il en va exactement de même. Maintenant, nous avons l'Église des Nations depuis le commencement jusqu'au dernier jour, et nous savons que nous vivons au dernier jour. Amen. Vous comprenez? Maintenant donc, si nous vivons dans ce dernier jour, à la fin de cet âge-ci, alors où en sommes-nous? Remarquez, avant, là, vous voyez la ligne qui est dessinée, ici, quand Dieu traitait avec les Juifs, ou il ne traitait pas avec les Juifs. Mais il a mis longtemps à les amener, il a mis 40 ans à les amener dans la situation où il les ferait détruire, dans toutes les nations. Partout, pendant les jours des nations, il lui a fallu les amener dans cette situation-là avant de pouvoir amener sa parole à s'accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ceux qui comprennent ça, dites « Amen ». Voyez-vous, je veux bien m'assurer que vous saisissiez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez au-dessus du dernier âge de l'Église, ici. Vous voyez ce petit prolongement? Les jours des nations se terminent. Et voilà 40 ans que les Juifs retournent à Jérusalem, qu'ils retournent dans leur patrie. Vous voyez où nous en sommes? Ça a pris 40 ans depuis le moment où le Messie a été retranché jusqu'à ce que Titus détruise le temple et qu'il disperse les Juifs. Ça fait de nouveau 40 ans que Dieu a endurci le cœur de toutes sortes de pharaons partout pour faire rentrer les Juifs dans leur patrie. Mais aujourd'hui, ils sont de nouveau dans leur patrie. Et l'Église est à la fin. Amen. Oh, j'essaie de lire, je n'y arrive pas. Remarquez, les Juifs sont dans leur patrie, ils y retournent. Si vous prenez le déclin de la guerre mondiale, volume 2, quand le général Allenby, après la première guerre mondiale, est arrivé au-dessus de Jérusalem avec des avions, qu'il s'en est emparé, qu'il a pris Jérusalem, et ces hommes chrétiens ont enlevé leur chapeau pour rentrer dans Jérusalem. Et Allenby s'est rendu sans un seul coup de feu. Ou c'est eux qui se sont rendus à Allenby, les Turcs. Et depuis ce moment-là, Dieu a endurci le cœur de Mussolini, le cœur de Hitler, le cœur de Staline, le cœur des hommes partout dans le pays pour qu'ils haïssent les Juifs. Et puis, les immenses oiseaux qui sont descendus, qui s'appellent la compagnie aérienne Eastern ou la compagnie aérienne panaméricaine ou quelque chose. Je crois que ça s'appelait la TWA. C'était dans le magazine Life, je crois. Look ou Life. Je crois que c'était Life. C'est seulement depuis les 3 ou 4 dernières années. Dieu fait rentrer les Juifs dans leur patrie, de laquelle ils avaient été absents pendant 2000 ans, pendant que ceux des nations se préparaient. Et maintenant, ceux des nations ont expulsé Christ de l'Église, conformément à Apocalypse chapitre 3. À revenir dans son église. Il n'y a pas d'endroit où il peut aller. Il est rejeté. Et c'est le moment de l'enlèvement. Tous les rachetés qu'il y a eu tout le long ici, les petits points qu'il y a, comme ceci, ce sont les saints qui montent dans la résurrection. Vous voyez, nous nous retrouvons tous ici. La Bible dit, nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. Tout au long, ici, ici et ici. Comment, mon frère pentecôtiste, comment pouvez-vous appliquer ça uniquement à ceux d'ici, de l'âge de l'Église de Laodicée? Ils sont là, endormis, dans chacun de ces âges. Ils attendent. Et nous, les vivants, le petit groupe qui reste ici, qui seront restés vivants jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. Avec eux. Nous sommes ici. C'est ici que nous nous retrouvons pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et voilà. Où en sommes-nous? Juste ici. Où le Messie a-t-il été retranché? Exactement où la parole l'avait dit. Quand commencera cette 70e semaine? Précisément après que cette église aura été retranchée. Alors Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Dès que l'église part, ensuite c'est au tour des Juifs. Ils entrent. Mais d'abord, la prochaine chose qui doit arriver, ce n'est pas un réveil national puissant parmi ceux des nations. La prochaine chose qui doit arriver, c'est la venue du royaume de Dieu, la venue de Christ. Maintenant, si vous voulez, nous pourrions reprendre dans Daniel, ici, au chapitre 2, les versets 34 et 35. Et quand Daniel a eu, au chapitre 2, 34 et 35, quand Daniel a eu la vision montrant que les jours de son peuple seraient terminés, et pour un certain temps, et qu'il a vu entrer ceux des nations, il a vu en vision cette pierre immense ici, ou cette statue immense, qui avait une tête d'or et une poitrine d'argent. Regardez bien, là, c'est de plus en plus dur, de l'argent à l'or. Ensuite, des cuisses de fer, ou des cuisses d'airain, et ensuite des pieds et des jambes de fer. Mais les orteils, il y avait 10 orteils, et ces orteils étaient de fer et d'argile. Et il a dit, « Comme tu as vu que le fer ne s'allie point avec l'argile, ces royaumes seront divisés. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, mais ils mêleront leurs semences, cherchant à briser la puissance l'un de l'autre. » Voyez? Alors, ce qui est arrivé, la tête d'or, c'était Nebuchadnezzar, comme il l'a interprété. Il a dit, « Il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi. » C'était Darius, le royaume des Mèdes et des Perses, qui a pris le royaume païen. Ensuite, ceux qui sont venus, après les Mèdes et les Perses, c'était qui? Les Grecs, Alexandre le Grand et tout. Le royaume des Grecs a pris ce royaume-là. Après ça, qui l'a repris aux Grecs? Les Romains. Et qui gouverne le monde des nations depuis ce temps-là? Les Romains. Les Romains. Et ça, c'était le fer. Et puis, remarquez, Rome existe jusqu'à la fin, parce qu'il y en avait jusqu'au bout des orteils. Et il a vu de la boue, de l'argile. Ça, ce sont les gens, ce dont nous sommes faits. Et le fer, la force de Rome, s'est retrouvée dans chacune de ces nations. Et Rome a de la force dans chaque nation qu'il y a sous le ciel. Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre sans... en disant un mot. C'est le pape. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question, frère. Dites ce que vous voudrez. La plus grande partie du monde, de la chrétienté, est catholique, voyez? Très bien. Qu'ils disent un mot, et c'est ça. C'est exactement comme ce qu'ils ont dit, là. Qui? Nous allons y venir plus tard. Qui peut combattre contre la bête? Qui peut parler comme elle? Qui peut le faire? Alors, faisons une image à la bête. Ça, c'est la confédération des églises. Faire une image à sa ressemblance. Voyez? Réunir les dénominations dans une confédération. Et c'est déjà fait. Oh, nous sommes à la fin, voilà tout. C'est aussi simple que ça, mon ami. Nous en sommes à la fin, voyez? Faisons une image à la bête, quelque chose qui lui ressemble. Une image, c'est quelque chose qui ressemble à autre chose, voyez? Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, remarquez, ici, à la fin de cet âge-ci. Or, Daniel, au chapitre 2 et au verset 34 et 35, il observait cette statue avec une grande attention. Il l'a observé jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied et elle l'a brisée. Or, elle ne l'a pas frappée à la tête, là, elle l'a frappée au pied. Ça, c'était le temps de la fin, les 10 orteils, là. Avez-vous remarqué, ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique comme président? Et je doute qu'il y en ait jamais un autre. Mais quand, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, il y avait la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie. Il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés. 5 pays occidentaux. Monsieur Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Monsieur Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit, en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Et Eisenhower, ça veut dire fer en anglais. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec et tout. Ça ne peut pas s'allier. Mais c'est au jour de ces empires-là que le rocher, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main a frappé la statue au pied. Or, détachée d'une montagne, ce devait être une montagne de roche. Elle s'est détachée de la montagne de roche. Or, avez-vous remarqué? Maintenant, mes frères prédicateurs et mes frères et sœurs tout autour du monde, d'après ce que je comprends, la première Bible qui a été écrite, Dieu l'a écrite dans le ciel, parce qu'il devait lever les yeux pour se rendre compte qu'il y a un Dieu au ciel, que Dieu est au-dessus d'eux. Et si vous remarquez, dans le Zodiac, maintenant que personne d'entre vous n'aille, tenez-vous-en strictement à cette Bible-ci, voyez? Mais le Zodiac, ce qu'il y a en premier dans le Zodiac, d'après ce que je comprends, c'est la Vierge. Et en dernier, dans le Zodiac, c'est le lion. C'est la première venue de Christ à travers la Vierge, et sa seconde venue, c'est le lion de la tribu de Juda. Voyez? Et puis, il y a l'âge du cancer et tous les autres dans le Zodiac aussi. Maintenant, nous voyons qu'il y en a eu une autre qui a été écrite, ou une autre qui a été placée, et c'était les pyramides. Avez-vous remarqué dans les pyramides, comme elles commençaient large à la base, comme une montagne faite de pierres massives, et ça continuait jusqu'au sommet? Mais il n'y a jamais eu de pierre qui a été posée au sommet de la pyramide, de la grande pyramide, là-bas en Égypte. Prenez votre... Si vous avez un billet $1 dans votre poche, prenez un billet $1 et regardez-le. Et là, vous allez voir d'un côté le sceau des États-Unis. Et de l'autre côté, il y a la pyramide en bas. Et au-dessus de la pyramide, il y a la pierre de fête. Mais c'est un grand œil, et ça s'appelle, sous la pyramide là, le grand sceau. Pourquoi l'aigle d'Amérique n'est-il pas le grand sceau? Ça, c'est un sceau de Dieu. Vous vous souvenez du petit chant que nous chantions? Tout le long du chemin vers la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. À chacun de tes pas, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui te surveille. C'est exact. Vous vous souvenez, nous avions un petit jubilé. Nous disions, si tu voles, que tu triches et que tu mens, et qu'à l'église tu témoignes, il y a un œil qui te surveille. Donc, le grand sceau. Or, nous savons, et moi, je ne comprends pas ça, les mesures de la pyramide. Mais je vous en ai parlé simplement au cours de certains enseignements que nous avons eus, pour que vous voyez que tout ça, ça se tient. Or, la pyramide représentait l'Église, au départ. Elle était large à la base. Et comme elle s'approche du sommet, elle prend de plus en plus la forme d'un entonnoir. Bon, nous voyons que ça arrive tout en haut, au sommet, et qu'ils ne l'ont jamais terminé. Pourquoi? Pourquoi? Je me demande bien pourquoi. C'est parce que la Bible a dit que la pierre principale a été rejetée. Elles ont été rejetées. Maintenant, regardez bien l'âge de l'Église. Écoutez bien maintenant. Ne manquez pas ceci. L'âge de l'Église, à partir du début de la Réforme, avec Luther, à l'époque où les pierres de fondement ont été posées, c'est-à-dire la doctrine des apôtres. Après, nous voyons qu'à mesure que les époques se sont succédées, d'un âge à l'autre, l'Église est devenue de plus en plus minoritaire, jusqu'à ce qu'elle en arrive à... Luther a prêché la justification. À l'époque, le simple fait d'être, de confesser qu'on était chrétien, il vous mettait à mort, au jour des martyrs, Et là, nous voyons qu'au jour de Wesley, on était un exalté si on confessait Christ à cette époque-là, d'être de la nouvelle méthode. Les gens sortaient ici, quand Wesley est venu ici, et Asbury, et qu'ils ont fait des réunions ici en Amérique. J'ai lu leur histoire. Et ils faisaient ça dans des écoles. Dans leurs églises ici, on ne voulait pas d'eux. Finalement, ils en sont arrivés au point où le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ils tombaient par terre, et on versait de l'eau sur eux, on les éventait avec un éventail. On pensait qu'ils s'étaient évanouis. J'y étais moi-même, à leur réunion, au cours de mes 50 ans. Je les ai vus tomber sous la puissance du Saint-Esprit, comme ça, et on leur versait de l'eau sur le visage et tout. Les méthodistes libres d'il y a bien des années. Il y avait de la persécution, là. Bon, et ensuite, une fois que cet âge-là a été terminé, l'âge de Wesley, il y a eu l'âge pentecôtiste, avec le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, ça prend forme de plus en plus. Mais souvenez-vous, la pierre principale, là, n'était pas encore dessus. Pourquoi ? Ils ont donné à l'église la forme précise, ou à la pyramide la forme pour qu'elle s'ajuste à la pierre principale. Mais la pierre principale ne s'est jamais posée. Vous voyez où j'en suis, n'est-ce pas ? Maintenant, le ministère depuis Luther jusqu'à la fin de la Pentecôte, dans cette toute petite minorité, ici en haut, c'est pour ça qu'il n'y a presque plus de lumière dans cet âge-ci, là, sur le calendrier, sur le schéma. C'est l'âge pentecôtiste, la Pentecôte, pas les dénominations pentecôtistes, parce qu'ils ont fait exactement comme ceux de Laodicée. Ce sont eux, les Laodicéens. Ils ont fait comme les Nicolaïtes, ils se sont organisés. Mais la véritable Église, tout autour du monde, a pris forme. Elle s'est rétrécie jusqu'au point où un ministère tout à fait semblable à celui de Jésus-Christ est venu au milieu d'elle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Comme ça, ils sont prêts. Maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite? Cette pierre rejetée de la pyramide, qui s'est détachée de la montagne, sans quoi? Sans le secours d'aucune main. C'est Dieu qui l'a envoyé. Vous le voyez? Celui qui a été rejeté, la pierre qui a été rejetée, est la tête de ceci. C'est la tête, la pierre de fait. Et celui-là même qu'ils ont rejeté tout au long de l'âge des nations, c'est Christ. Et Christ n'a pas été détaché et mis là comme vicaire ou fils de Dieu ou quelque grand dignitaire de l'Église. Il est le Saint-Esprit. Et le sommet de la pyramide, ce sera Christ qui viendra. Vous le voyez? Alors, puisqu'ils ont la forme qu'il faut, voyez-vous que j'ai fait ça ici en forme de pyramide? Les saints qui se lèvent, c'est l'entrée triomphale dans la gloire. Vous comprenez maintenant? Christ, la pierre principale, la pierre rejetée, l'œil qui voit tout, qui arrive exactement comme la Bible l'avait annoncé. Et Daniel a dit qu'il a observé cet âge des nations, jusqu'à ce qu'une pierre qui n'avait pas été taillée par des mains se détache de la montagne. Ils n'ont jamais posé de pierre de fait sur cette pyramide. Elle n'a pas été détachée par les mains de l'homme. C'est la main de Dieu qui a détaché cette pierre. Vous le voyez? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a frappé la statue en plein dans les pieds. Elle l'a mise en pièces. Elle l'a réduite en poussière. Alléluia! Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, à la venue de cette pierre? C'est là que l'Église est montée dans la gloire, à l'enlèvement, parce que ceci mettait fin à la dispensation des nations. C'est Dieu qui a mis fin à la venue de cette pierre. Il y avait des gens qui venaient ici à l'Église, un petit homme avec sa femme. Il prenait une Bible et il la posait quelque part. Et il continuait en chantant. « Oh, je cherche cette pierre qui roulait à Babylone, roulait à Babylone. » Il se promenait en cherchant ça, vous voyez. « Je cherche cette pierre qui est entrée dans Babylone en roulant. » Le voilà, c'est Christ qui est cette pierre. Il n'est pas né d'un homme, il est né de Dieu. Il vient chercher une église qui est née de nouveau par l'Esprit de Dieu. En effet, la force de cette pierre principale traverse toute l'église comme un aimant. Je me souviens de la fois où je suis allé à la fabrique ici. Je regardais ça alors qu'ils taillaient différentes choses. Il y avait tous les déchets de fabrication par terre. Elles ont balayé tout ça. Une grosse pierre est venue attraper ça. Une grosse pierre est montée. Elle a attrapé tout ça parce que ça s'y aimantait. Il faut que nous soyons aimantés à cette pierre principale. Cette pierre principale, c'est le Saint-Esprit, Christ. Et chacun de nous, nous avons cette aimantation du Saint-Esprit. Quand cette pierre frappera la statue, l'Église ira vite s'y réfugier. Elle retournera dans la gloire. Elle sera emportée au moment de l'enlèvement des saints, quand elle partira ce jour-là. Maintenant, regardez bien. Nous voyons que ça fait maintenant environ 40 ans que les Juifs retournent, à peu près le même temps qu'ils ont mis à partir, jusqu'à la destruction du Temple. Ils ont mis environ 40 ans à revenir avant d'ériger un nouveau Temple. Vous voyez, nous sommes vraiment au bout du chemin. Eh bien, si ceux des nations, maintenant prenons, nous voyons l'Église, la venue de la pierre. Prenons le dernier âge. Nous avons étudié ça, nous voyons là, Je crois que j'ai quelque chose d'écrit ici à ce sujet. Voyons un peu, un instant. Et le prince qui viendra, qui est l'Antichrist, fera une alliance avec les Juifs. Et dans Daniel 7 ou 9, 27, et au milieu de la semaine, 3 ans et demi, la bête fera son alliance. Je veux y venir un peu plus tard, à cette alliance-là. Nous voulons laisser, je veux commencer par ceci, là. Chacun de ces âges des nations est démontré de façon infaillible, par son messager, par son message, et par ce qui devait arriver. Cet âge, ici, a été un âge glorieux. Dans l'âge suivant, il était dit qu'il viendrait une doctrine qu'on appellerait, ou qu'il viendrait quelque chose qu'on appellerait les dires des Nicolaïtes. Puis ensuite, c'est devenu une doctrine. Ensuite, il y a eu mariage avec l'église Nicolaïte, et les saints ont été persécutés. Tout s'est passé exactement comme ça. On en arrive au suivant, un tout petit peu de lumière commence à poindre. Tu as un peu de force, tu as le nom de vivre, et tu es mort. Affermis ce que tu as déjà, de peur que je ne vienne ôter le chandelier. Après ça, voilà Wesley qui arrive avec son âge. Nous avons vu exactement ce que l'âge de Wesley. Ça s'appelait comment? L'âge de Philadelphie. L'âge d'amour le plus glorieux qu'on ait jamais eu. L'âge de Philadelphie. C'était bien à l'époque de John Wesley. Quand lui, il est parti, la Pentecôte est arrivée. Et elle était tiède. Ensuite, nous retournons voir quel genre de message devait venir aux pentecôtistes à la fin. Souvenez-vous, chacun d'eux est arrivé à la fin de l'âge. Saint Paul est arrivé à la fin, tous les autres sont arrivés à la fin. Saint Irénée et tous les autres. L'âge de l'autre se prolongeait dans le suivant, il se recouvrait. Lui, il reprenait ça et il continuait à partir de là, dans l'âge suivant. Voyez? Maintenant, nous voyons que dans cet âge-ci, il y a une étoile, comme nous en avons là. Nous avons une étoile, un messager, nous avons une personne, un message qui est proclamé pour cet âge-là. Des gens qui vont le rejeter, des gens qui vont l'accepter. Et le messager de cet âge-ci devait venir avec la puissance d'Élie. C'est exact. Et il devait ramener la foi des enfants au Père. Ramener le reste, ceux de la Pentecôte qui restent, à la véritable foi apostolique. Or, la véritable foi apostolique, si vous lisez ce qu'il en est dans le livre des Actes, vous verrez que pas une seule fois, une seule personne n'a été baptisée au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Pas une seule d'entre elles qui ait jamais été aspergée. Il n'y a rien des choses qui ont cours aujourd'hui sous le nom de Pentecôte qui soient jamais arrivées à cette époque-là. Ils avaient de vraies manifestations, et l'Esprit de Dieu était parmi eux, montrant de façon infaillible que c'était le Fils de Dieu qui œuvrait au milieu d'eux. Cette personne qui devait venir, ou plutôt ce message qui devait venir, il devait être comme Élie. Élie devait venir 3 fois. Bon, vous allez dire que c'est Jean-Baptiste qui était ce gars-là. Si vous remarquez, Jésus a dit que c'est Jean-Baptiste qui a été le messager de Malachie 3, pas celui de Malachie 4. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Je pense que c'est Matthieu 11, 6. Que vous trouverez ça quelque part par là, dans Matthieu chapitre 11. Bon, mais dans ces derniers jours, il y a un esprit d'Élie qui doit venir parmi les gens. Et doit faire la même chose qu'eux ont fait à l'époque. Sa nature serait pareille. La nature de l'Église, la nature de cette personne serait exactement pareille. Et ce message serait proclamé, essayant, il serait haï des gens. Il haïrait les femmes, tout du moins celles qui sont méchantes, les mauvaises. Il aimerait les régions sauvages. Un gars d'une humeur changeante, toujours contrarié, comme l'était Élie et comme l'était Jean. Et nous avons vu tout cela s'accomplir. Si nous avons reçu le message, nous voyons que Christ est rejeté. Il faut faire partie d'une des organisations, sinon on ne peut pas y entrer. Par conséquent, il est mis à la porte, voyez. Christ ne peut pas agir parmi eux. Vous êtes quoi? Chrétien. De quelle dénomination faites-vous partie? Je ne fais partie d'aucune. On n'a pas besoin de vos services. Vous voyez, il est rejeté. Exact. Vous voyez, rejeté. Élie aussi a été rejeté. Et Jean aussi a été rejeté. Mais est-ce que ça les a dérangés? Est-ce que ça a dérangé leur message? Ils ont dit, « Oh vous, hommes aux coups raides, ils n'y sont pas allés de main morte. Ils n'ont pas mâché leur mort. Ils ont continué à avancer. Et le message de Dieu continuera à avancer, peu importe ce que n'importe qui peut dire, voyez, jusqu'à ce que la ruine... et que ce qui a été résolu soit déversé. Et nous sommes à la fin. Donc, nous nous retrouvons maintenant au bout d'une période de 40 ans où les Juifs sont rentrés depuis la Première Guerre mondiale. Ils sont retournés dans leur propre pays. Jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'était pas dans son propre pays. Or, vous vous souvenez, quand les Juifs retournaient, ces Juifs venus des autres pays, le magazine Look a fait un article là-dessus. J'ai lu une coupure d'un journal, d'un magazine religieux, qui disait que quand les avions sont descendus chercher les Juifs qui étaient très loin, en Iran, et je ne sais pas quels sont tous les endroits où ils étaient dispersés. Or, ceux-là, ce sont les vrais Juifs, ceux qui n'ont jamais eu d'occasion. Alors, frères, les voilà vos 144 000. Quand nous arriverons à Apocalypse 11, vous allez les voir. Il a dit, il y a 12 tribus de Gad, 12 tribus d'Aser, 12 tribus de Ruben, 12 tribus. Et où étaient-ils tous? Sur le mont Sinaï, les Juifs revenus dans leur patrie. Les voilà. C'était eux. Ce n'était pas cette bande d'escrocs de Wall Street. Non, monsieur, c'était les vrais Juifs. Et quand ce vieux rabbin là-bas a vu atterrir cet avion, ces Juifs, vous l'avez lu dans le magazine, ils en étaient encore à la bourrée avec des charrues en bois. Et quand ils ont vu cet appareil posé là-bas, ils ne s'en approchaient pas du tout. Ce vieux rabbin s'est tenu là et il a dit, « Souvenez-vous, notre prophète a dit que quand nous retournerons dans notre patrie, nous serons portés sur les ailes d'un aigle. Les nations se disloquent, Israël se réveille, signes annoncés par les prophètes. Nous allons même bientôt arriver à leur septième semaine, là. Je me revois là-bas quand frère Petrus leur avait envoyé des petits testaments et qu'il les avait lus. Il disait, « Eh bien, si celui-ci est le Messie, que nous le voyons accomplir le signe du prophète, s'il n'est pas mort, il est vivant. » Il disait, « Il est ressuscité, il vit dans son Église. Que nous le voyons accomplir le signe du prophète et nous croirons en lui. » Les Juifs croient toujours. Ils savent que le Messie devait être prophète. Et quand j'étais à cet endroit, là-bas, chez frère Hagenbreit, ce jour-là, et que ces Juifs étaient là qui disaient, « Venez donc chez nous, vers notre peuple. » J'ai dit, « Bien sûr, je viendrai avec plaisir. » J'avais tout simplement pris une décision trop rapide. Je suis arrivé au Caire, en Égypte. L'autre soir, quand j'ai vu l'avion qui se posait, là-bas au Caire, ça m'a rappelé ça. Donc, quand nous sommes arrivés là, j'avais mon billet pour Israël. Ils devaient me retrouver là-bas. J'avais dit, « Allez convoquer quelques milliers des chefs. » « Amenez-les quelque part dans la plaine. On va voir s'il est encore prophète, oui ou non. Amen. Eh bien, voyons ce qu'il va faire. Oh, ça, c'était vraiment à portée de leurs mains. C'est ça qu'ils voulaient. S'ils pouvaient voir ça, ils y croiraient. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé au Caire et je m'apprêtais à aller là-bas. J'avais déjà mon billet. Il restait une vingtaine de minutes avant l'appel. Quelque chose m'a dit, « Pas maintenant. La coupe des iniquités des nations n'est pas encore à son comble. » Les Amoréens ne sont pas encore accomplis. Reste en dehors de là. J'ai pensé que c'était peut-être juste mon imagination. Alors je me suis retiré derrière le hangar et j'ai prié. Il a dit, reste en dehors de là en ce moment. Alors j'ai pris mon billet et je suis allé ailleurs. Je n'y suis pas allé parce que ce n'est pas encore l'heure. Maintenant, à quel moment Dieu va permettre à ces Juifs se remettre à traiter avec eux? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Mais écoutez, si Israël est déjà dans sa patrie, tout est prêt. Toutes les pierres ont été ramassées, et l'irrigation, l'eau et tout ce que Dieu a promis. Ils ont trouvé des puits et tout là-bas, et des grands ruisseaux qui coulent librement. C'est l'endroit le plus beau que vous ayez jamais vu. Ils ont une ville construite là-bas. Ils ont l'irrigation. Ils ont la meilleure terre qu'il y ait au monde là-bas. Et nous découvrons qu'en plein dans la mer morte, il y a plus de produits chimiques, assez pour acheter le monde entier. Voyez ? Tout leur est tombé dans la main. Comment ont-ils fait ça? C'est que le cœur de Hitler a été endurci, que le cœur de Mussolini a été endurci, tout comme le cœur de Pharaon avait été endurci. Et ils les ont forcés à retourner dans ce pays-là. Et voilà 40 ans qu'ils retournent dans ce pays. Maintenant, ils sont là, ils attendent. L'Église des Nations est dans Laodicée, à la fin de l'âge de Laodicée. Si les Juifs sont dans leur patrie, ils y sont déjà, et déjà l'apostasie des nations s'est produite. Et avec un président comme celui que nous avons, avec une nation divisée comme la nôtre, avec des bombes atomiques suspendues dans les silos, avec une église qui est tiède, avec une église des gens qui se sont rassemblés, avec un ministère qui est la réplique du ministère de Jésus-Christ, pour saisir la pierre quand elle viendra. Qu'est-ce qui reste encore? Ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. Il ne reste plus rien d'autre. Nous sommes au temps de la fin. Oh, gloire! Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver au jubilé, là, ou non, mais je voudrais quand même vous en apporter au moins une partie. Écoutez, combien le voient maintenant? Le voyez-vous que les Écritures démontrent que les 70 semaines, c'était 49 ans? Le voyez-vous que les 62 semaines, c'était 434 ans? Le voyez-vous que les 69 semaines, alors c'était combien? 483 ans jusqu'à maintenant. Voyez-vous où le prince a été retranché? Vous voyez, il faut compter 40 ans pour que les Juifs finissent par arriver à l'endroit où Dieu avait dit qu'ils seraient. Regardez ici comment l'âge des nations est passé par tout ce que nous avions annoncé pour lui. Pas ce que nous avions annoncé pour lui, mais ce que la Bible avait annoncé pour lui. Ce que la Bible avait annoncé pour lui, c'est arrivé, et jusqu'à ce dernier âge. Et voilà 40 ans que les Juifs sont en train de rentrer ici, qu'ils se préparent pour que Dieu fasse exactement la même chose qu'il avait fait ici. C'est comme ça qu'ils sont sortis, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Israël est de nouveau dans sa patrie. Maintenant, quand Dieu va-t-il faire commencer leur dernière semaine? Quand? Ce pourrait être aujourd'hui. Ce pourrait être avant que le soleil se couche ce soir. C'est Dieu qui le déclarera. Quand ce sera, je ne sais pas. Je me le demande. Mais je vais apporter quelque chose ici, là, dans quelques instants, et je ne sais pas si vous allez le croire ou pas. Seulement, je dois le dire de toute façon, je crois. Nous en sommes là, à la patrie. Les Juifs sont dans la patrie. Nous en sommes à la fin de l'âge, prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement a lieu, l'Église monte, nous sommes enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Ça, nous le savons tous. La pierre qui s'est détachée de la montagne est prête à venir d'un moment à l'autre. Et quand elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met fin à l'âge des nations. Il sera terminé, et Dieu cessera complètement de traiter avec eux. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il emporte son Église, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont souillés, c'est qui? C'est la Vierge endormie et ceux qui comparaîtront en jugement plus loin, ici. Nous mettrons ça sur un autre schéma quand nous tracerons la suite de celui-ci. Alors qu'elle arrivera au jugement du trône blanc et qu'elle devra être jugée par les rachetés. Paul nous a dit de ne pas aller en justice pour régler un différend, parce que les saints jugeront la terre. C'est exact. Nous sommes au temps de la fin, ici. Maintenant, bien. Et au milieu de cette semaine, bon, ici, il y a les 70. Bon, si celles-là ont correspondu exactement à 7 ans, chacune des semaines, et qu'on a déjà eu 69 semaines, ensuite il y a l'âge des nations, et nous savons que nous sommes à la fin de l'âge des nations. Alors il reste encore une semaine pour les Juifs, pas vrai? Et ça, c'est exactement 7 ans. Si ceci, c'était 7 ans, ça, c'est 7 ans. Parce qu'il a dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, nous savons qu'il nous reste 7 ans pour les Juifs. N'est-ce pas vrai? Maintenant, examinez ça. S'il y a une question, je veux savoir, voyez? Bon, et au milieu de la semaine, au milieu de cette semaine des Juifs, vous voyez, ça, c'est 3 ans et demi. Il y a l'Antichrist, le prince, un prince qui doit venir. Et souvenez-vous, c'est de Rome qu'il vient, ce prince qui doit venir. Qu'est-ce qu'il est? Un pape. Un prince parmi les gens qui doit venir. Il s'élèvera un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Maintenant, vous, les protestants, vous dites, « Eh bien, voilà, c'est ça. » Mais un instant là, nous voyons que les protestants forment une organisation, forment une confédération des églises, une image à la bête, et qu'ils marchent avec eux. Et nous voyons ici qu'il est demandé aux Juifs d'entrer dans cette confédération. Oui, monsieur. Et ils acceptent. La Bible dit qu'ils ont accepté. Et il fait une alliance avec eux. Au milieu de la 70e semaine, il rompt. L'Antichrist rompt son alliance avec les Juifs, ton peuple. Pourquoi? Nous lisons dans Apocalypse 11, « J'enverrai ». Ça, c'est 11. On s'approche de 19, là. Il enverra ses deux prophètes et ils prophétiseront à ce moment-là. Et alors, ils vont s'irriter contre ces prophètes et littéralement les tuer. Pas vrai? Et leurs cadavres seront dans la rue spirituelle du nom de Sodome et Gomorre, là où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Pas vrai? Et ils resteront là 3 jours et 3 nuits. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, l'Esprit de vie entrera en eux, et ils seront ressuscités et s'en iront dans la gloire. Un dixième de la ville est tombé à cette heure-là, pas vrai? Voyez? Qu'est-ce que c'est? Au milieu de ces 70 dernières années, quand l'Église montera, alors la Confédération, les Vierges endormies, les Méthodistes, les Baptistes, les Presbytériens, les Pentecôtistes tièdes, tous ceux-là seront réunis dans une confédération. D'ailleurs, ils ont déjà leur grande structure maintenant. Et à ce moment-là, ils feront une alliance. Eh bien, qu'on a maintenant, il veut tous les faire entrer. Vous voyez, n'est-ce pas, comme toute la chose prend forme. Il va faire un discours là-dessus et les faire tous entrer. Pour la première fois depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Depuis un millier d'années ou deux, ce n'était jamais arrivé. Il doit tous les rassembler, faire une confédération, et là, les Juifs l'accepteront. Gloire, alléluia, louange à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Et voilà! Mes frères, c'est si simple, qu'un petit enfant pourrait le voir. La confédération qui réunira les Juifs, les protestants et les catholiques. Et souvenez-vous, ces deux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont venir? Cette bête, ce prince qui brisera la force du peuple saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rompre son alliance avec eux au bout de 3 ans et demi. Il va les exclure. Maintenant, les gens pensent que c'est le communisme. Ça, c'est juste parce que vous, l'Esprit de Dieu n'a pas encore traité avec vous. Ce n'est pas le communisme, c'est la religion. La Bible dit que ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus si c'était possible. Jésus l'a dit. Voyez-vous, on est à la fin. Donc, ces deux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont Moïse et Élie qui vont entrer en scène. Ils vont montrer à ces Juifs leur erreur. Et c'est à ce groupe de Juifs qui sont là-bas maintenant, qui doit former les 144 000, que Dieu lancera son appel par ses prophètes. Qu'est-ce que c'est? L'esprit d'Élie qui était sur l'Église des Nations continuera tout droit dans cette Église juive. Il ira là-bas, elle lancera son appel. Moïse sera avec lui. Alléluia! Vous le voyez? Il prêchera le même message de Pentecôte à ces Juifs, comme quoi ils ont rejeté le Messie. Amen! Vous le voyez? Ce sera le même message pentecôtiste qui leur sera prêché là par ces Juifs. Et ces Juifs, on les haïra au point qu'on les tuera. Ils furent haïs de toutes les nations. Et au milieu de la semaine, parce qu'un groupe puissant de 144 000 s'était élevé au milieu d'eux. Ils avaient le Saint-Esprit et frères, parlaient de faire des miracles, eux, ils en ont fait. Ils ont fermé les cieux, et il n'est point tombé de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils frappaient la terre de plaies, chaque fois qu'ils le voulaient. Ils envoyaient des plaies et tout le reste. Ils feront la vie dure à ces Romains. Mais finalement, ils seront tués. Notre Dieu est un Dieu terrible quand il est en colère. Mais souvenez-vous, ça, c'est pendant la 70e semaine, alors que l'Église est dans la gloire. Amen. C'est pendant le souper des noces. Oui. Maintenant, remarquez, c'est là que nous l'avons vu revenir dans le temple du millénium, là, à la fin de l'âge des Juifs, lointe. Le voilà qui arrive, monté sur un cheval blanc. Eux le suivaient sur des chevaux blancs. Cheval, puissance. Vêtu de blanc, sang, ou d'un vêtement teint de sang, sur lui était écrit la parole de Dieu. Il venait comme puissant vainqueur, oui monsieur, pour établir le millénium. Il entrait dans le temple. Gloire! C'est là qu'il vient rencontrer ses 144 000. Là, après cette 70e semaine ici, la 70e semaine. Ceci se passe pendant la 70e semaine. Pendant les trois, au milieu, il la rompt, puisqu'il tue ces deux prophètes pentecôtistes. Monsieur, qui frappe la terre. Et, oh là là, il maudit cette église et la consume par le feu. Et, oh, elle, nous voyons là que même les marins se tenaient éloignés. Ils disaient, malheur, malheur, la grande ville immortelle de Rome, elle a été anéantie en une seule heure. L'explosion l'a mise en pièces. Dieu a sa façon de faire les choses. Et un ange a regardé et a dit, « Mais on a trouvé chez elle le sang de tous les martyrs de Christ. » En effet, Elle avait séduit, elle était allée organiser là et faire toutes ces autres choses et polluer l'Église. Elle avait introduit ces choses, elle avait martyrisé ceux-là même qui essayaient de soutenir cela et qui essayaient de les faire sortir. Gloire! Oh, je ne sais pas. J'ai envie de cheminer. Voyez, n'êtes-vous pas heureux d'avoir la lumière du Fils, de marcher à la lumière du Fils? Où en sommes-nous, frères? À la dernière heure. Ça pourrait arriver d'un moment à l'autre. Nous en sommes là. Le message a été proclamé à l'Église des derniers temps. L'Église qui a rejeté son Christ. Les Juifs sont dans leur patrie depuis cet espace, cette période de temps de 40 ans. La ville nouvelle a été construite. Ils attendent quoi? Un Messie qui va venir. Quand ça? Je ne sais pas. Quand cette pierre frappe la statue ici, elle est partie. À ce moment-là, c'est terminé. Maintenant, remarquez là, au milieu de la semaine, 3 ans et demi plutôt, il rompt l'alliance et il fait cesser le sacrifice et l'offrande qu'ils auront déjà rétabli. En effet, ils diront carrément, « Écoutez là, vous êtes toutes des églises, vous pouvez être admises dans cette image à la bête. On va s'associer, on va se débarrasser du communisme, on va complètement balayer le communisme. » Voyez, et ils peuvent le faire. Voyez, et ils vont le faire. Mais maintenant, regardez bien, et rétablir ceci, le culte et le sacrifice perpétuel reprendront leur place dans la ville une fois que le temple aura été reconstruit. Et ce prince qui doit venir au milieu de la semaine, il rompra son alliance et fera cesser ses sacrifices. Il est dit qu'il brisera cela et ce qu'il fera, et que cela durera jusqu'à la fin. Et remarquez, ira à l'extrême de l'abomination pour causer la désolation. Ira à l'extrême de l'abomination. Une abomination, qu'est-ce que c'est? De la souillure, voyez? Causer la désolation, qu'est-ce que c'est? Supprimer. L'extrême de ceci pour supprimer cela, voyez? Rome qui manifestera à l'extrême sa puissance afin de conquérir toutes les vierges endormies, les juifs et tout. On sera tous romains ou on ne sera rien du tout. Il rompra son alliance au milieu de la semaine, à l'extrême de l'abomination. Si du temps de Jésus, l'abomination, c'était quand Rome est arrivé là-bas avec sa propagande. Ce sera de nouveau Rome qui sera de nouveau l'abomination pour l'Église, causer la désolation et continuera jusqu'à la ruine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer comme ça jusqu'à la ruine, c'est-à-dire la fin. Donc les Juifs, les catholiques romains, les protestants, c'est-à-dire les vierges endormies, vont se rassembler sous la forme de la Fédération des Églises. Et ce sera comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24 et Apocalypse 13, 14. Prenons Apocalypse 13, 14 pour voir ça. Ici, je l'avais noté d'aller voir ça. 13, 14. Bon, très bien. Elle séduisit les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'opérer. Rassembler ses églises, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle de l'épée et qui vivait. Or, nous savons sans l'ombre d'un doute qui était cette bête, cette puissance qui avait la blessure mortelle, mais qui vivait. C'est quand la Rome païenne a été tuée et que la Rome papale a pris sa place. Quand la puissance païenne a été tuée et que la puissance papale a pris sa place. Bon, donc, Apocalypse 13, 14. Jésus, dans Matthieu 24, les a mis en garde à ce sujet. Une image à la bête. Paul, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 3 et 4. Prenons-le pour voir Paul, ce qu'il dit là à ce sujet. Le glorieux Saint-Esprit qui était sur ce grand prophète du Seigneur. Voyons ce qu'il a annoncé à ce sujet pour le dernier jour. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que ça se trouve. Bon, très bien. Et en commençant au verset 3, je crois. Très bien. Maintenant, lisons. Écoutez bien tous. Combien croient que Paul était rempli du Saint-Esprit? Amen. Regardez bien là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il essaye de les débarrasser de l'idée qu'il revient à ce moment-là. Il dit, il faut qu'il y ait une apostasie, qu'on se soit éloigné de l'Église auparavant. Voyez ce qui est arrivé dans cet âge de l'Odyssée. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, l'incrédulité à l'égard du Saint-Esprit. Vu paraître l'incrédulité, le fils de la perdition. comme Judas, le trésorier de l'Église. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Frère, y a-t-il une personne sur terre ailleurs qu'au Vatican qui fasse ça? Où ça? Maintenant, on pourrait prendre ici dans Apocalypse 13 et vous montrer que cet homme est assis sur une ville, dans une ville, et que cette ville se trouve sur cette colline. Et les nombres de la bête, c'est 666, écrit dans l'alphabet latin, l'alphabet romain, 666. C'est Vicarius Filii Dei, ce qui veut dire à la place du Fils de Dieu, sur le trône d'un pape. Et son siège, il a une triple couronne. Et cette couronne, je l'ai vue de mes yeux. Elle n'était pas plus loin de moi que ma main de mon visage. Comme ça, et j'ai vu la tiare du pape, là-bas au Vatican, de mes yeux. J'étais là et je l'ai regardé, pour être bien sûr de ce que j'avance. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tous les hommes pieux, c'est lui le plus saint d'entre tous. Il s'assied dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Il pardonne les péchés sur terre et tout ça, vous savez. Certainement. Paul a dit, il faudra que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître ce fils de la perdition. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Oh, j'aurais aimé être assis là, à entendre Paul prêcher ça, pas vous? Comme j'aurais aimé l'entendre, oh là là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Une image à la bête, 2 Thessaloniciens. Maintenant, écoutez attentivement, là, très attentivement. L'Église sentait déjà qu'un pape allait venir. Qu'est-ce? La fin de cet âge de l'Église-là, Paul. Ils ont vu le nicolaïsme, là, qui s'élevait. Ils allaient faire un saint homme. Quoi donc? Un pape. La mondanité et les aristocrates s'étaient infiltrés dans l'Église. Elles changeaient l'ordre de l'adoration. Paul, par le Saint-Esprit, avait saisi ça dans l'esprit. Et l'Église, avec ses classes et ses dignitaires, ses personnalités revêtues de dignité et tout, là, ils ont vu que quelque chose allait venir, et le Saint-Esprit les avertissait au sujet des derniers jours. Jésus en a parlé, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Les œuvres des Nicolaïtes, qui ont fini par devenir une doctrine et ensuite une organisation. Frères, nous ne sommes pas dans le noir maintenant. Souvenez-vous-en, voyez? Nous y voilà. Les œuvres des Nicolaïtes, l'organisation à ses débuts, avec les grands dignitaires qui gouvernaient les églises et tout. Et ensuite, ils ont formé l'Église catholique. Et Paul a dit que le temps de la fin ne pouvait pas venir, que le temps ne pouvait pas venir tant qu'il n'y aurait pas eu l'apostasie, de s'éloigner de la vraie foi pentecôtiste. La foi pentecôtiste sera éliminée et les dignitaires seront bien installés. Il y aura un homme parmi eux qui prendra la place de Dieu, qui s'assiera dans le temple de Dieu, un adversaire qui s'élèvera au-dessus de tous, comme ça. Et c'est, voyez-vous, qu'est-ce que c'est? Nikao, conquérir les laïcs, voyez? Tout ce qu'on appelle Dieu, il s'assiera dans son temple de Dieu comme Dieu. Paul a dit que l'apostasie viendrait auparavant, dans les derniers jours. Et voilà où nous en sommes, exactement là maintenant. Et nous voyons l'apostasie, en voyant l'Église qui s'en éloigne de plus en plus et qui retourne tout droit en arrière. Et nous sommes au temps de la fin. Bien. Bon, donc si les 69 semaines ont correspondu parfaitement et que les Juifs sont maintenant dans leur patrie et que l'âge de l'Église des nations correspond exactement au temps de la fin, au temps des Nicolaïtes ou au temps de l'Odyssée, combien proche est la venue du Seigneur, la fin de toute chose, la fin de cet âge et l'enlèvement. Dès l'instant où il fait commencer la 70e semaine, ou 7 ans, l'Église est partie. Est-ce que vous le voyez, mes amis? Levez la main si vous le voyez. Voyez, maintenant, ne soyons pas des enfants. Ne jouons plus avec ça. Nous sommes au temps de la fin. Quelque chose est sur le point d'arriver. Nous sommes à la fin. Nous y voilà. Ces 69 semaines ont correspondu parfaitement. Le départ des Juifs a correspondu parfaitement. L'âge de l'Église a correspondu parfaitement. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin. L'âge de l'Église de Laodicée. La fin de celui-ci. Les messagers étoiles, ils ont tous prêché leur message. Il a été proclamé. Nous continuons simplement sur la lancée. Les Juifs rentrent depuis 40 ans. Ils sont dans leur patrie. Qu'est-ce qui doit arriver ensuite? La venue de la pierre. Nous en sommes là. À quel moment est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mes frères, quant à moi, je veux être prêt. Je veux que mes vêtements soient entièrement prêts. Maintenant, il ne nous reste plus que quelques petits instants. Et j'aimerais que vous écoutiez tranquillement là un petit instant. Dès le moment où il fait commencer la 70e semaine, ou 7 ans, l'Église est partie. Maintenant, écoutez, je cite de nouveau, je recite, pour que vous ne l'oubliez pas. Ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Le Christ est rejeté par sa propre Église. L'étoile de cet âge-ci, le message a été proclamé, et Israël est dans son pays. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes à la fin. Maintenant, encore seulement une ou deux remarques. Tout ce que nous voyons maintenant va nous aider, par sa grâce, alors que nous tenterons d'aborder ces derniers 7 sceaux. Vous voyez où nous aurions passé à côté? D'Apocalypse 6.1 à Apocalypse 19.21, nous aurions passé à côté. Parce que, voyez-vous, nous aurions essayé d'appliquer ça là-bas, dans l'âge des nations, alors que, voyez-vous, c'est dans cet âge-ci, voyez? Maintenant, nous l'avons démontré par la parole de Dieu, par l'histoire et par tout. Par les signes des temps, par les jours, qu'il ne reste plus rien d'autre. Nous sommes à la fin des nations. Qu'est-ce que nous allons y faire? Il y va de mon âme et de votre âme. Il y va de ma vie et de votre vie. Il y va de la vie de nos bien-aimés. Nous nous sommes fait dorloter trop longtemps. Nous avons eu trop de facilité. Nous ferions mieux de nous mettre à avancer. Il est plus tard que vous ne le pensez. Souvenez-vous-en. Maintenant, une déclaration saisissante, si vous voulez la noter. Écoutez bien, je vous en prie, c'est la dernière remarque que je vais faire, l'avant-dernière. Après celle-là, je n'ai qu'une toute petite chose à ajouter, une petite note dont je voudrais parler. Maintenant, détendez-vous un instant, écoutez bien. Je vais vous apporter quelque chose de saisissant, dans la ligne de ce qu'on vient de dire. Voyez? Il n'y a même pas l'épaisseur d'une lame de rasoir entre la fin de cet âge-ci et la venue de Christ. Tout, il ne reste rien d'autre. Est-ce qu'Israël est dans sa patrie? Ça, nous le savons. Est-ce que nous sommes dans l'âge de Laodicée? Est-ce que le message de cet âge de Pentecôte a été proclamé pour essayer de secouer les gens, les ramener à la bénédiction de Pentecôte de l'origine? Est-ce que ça a été la même chose pour tous les messagers qui sont venus au cours des âges? Est-ce que nation s'élève contre nation? Des pestes? Est-ce qu'il y a une famine dans le pays aujourd'hui? La véritable Église qui fait des centaines de milles en voiture, cherchant à entendre la parole de Dieu? Pas de pain seulement, mais d'entendre la parole de Dieu. Il est survenu une famine. Pas vrai? Nous vivons en plein dedans, maintenant même. Vous voyez où nous en sommes? Nous attendons cette pierre, une déclaration saisissante. Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, ne manquez pas ceci. Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, Genèse 12, 3, jusqu'au moment où Christ a été rejeté, en 33 après Jésus-Christ, par les Juifs, d'après Galates 3, 16 et 17, et d'après la chronologie d'Ashe, U-S-H-E-R, la chronologie des Hébreux selon Ashe, la puissance de Dieu a été avec les Juifs pendant exactement 1954 ans. Dieu a traité avec les Juifs pendant 1954 ans, d'après la chronologie des Juifs et d'après Galates 3, 16 et 17. J'ai bien d'autres passages de l'Écriture, mais je donne seulement ceux-là. Ensuite, après qu'ils ont rejeté Christ, il s'est tourné vers ceux des nations pour y choisir un peuple qui porta son nom. Vous voulez un passage de l'Écriture là-dessus? Où ça se trouve? Acte 15, 14. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu'il nous reste exactement, écoutez, 17 ans. Et il nous aura été alloué le même espace de temps avec Dieu qui traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit depuis l'an 33 avant Jésus-Christ jusqu'en 1977. Le même espace de temps de 1954 ans. Dieu qui traite avec nous comme il a traité avec les Juifs. Qu'est-ce que vous dites de ça? Maintenant, Notez dans votre carnet un petit passage de l'Écriture, là, que je veux vous donner. Lévitique 25, en commençant au verset 8. Dieu faisait sonner le jubilé tous les 49 ans. La 50e année, c'était le jubilé. Nous savons ça, nous le comprenons. Depuis le premier jubilé de Lévitique 25:8, en 1977, ce sera le 70e jubilé, ce qui donne exactement 3430 ans. Jubilé, ça veut dire « on monte, la délivrance ». Oh, nous attendons la venue du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, la terre crie, soupire après ce jour de délivrance, où notre Sauveur reviendra sur la terre. Avez-vous saisi ça? Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs, à partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'à ce que le Messie soit rejeté, en 33 après Jésus-Christ, ça donne 1954 ans. Et maintenant, il nous reste 17 ans. On a eu environ 1930 ans et quelques. Il nous reste 17 ans jusqu'en 77, où ce sera le 70e jubilé depuis le début des jubilés. Et qu'est-ce que ce sera? Oh, frères, soyez bien attentifs là. Ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations quand elle montera et du retour de Christ vers les Juifs, quand ils sortiront de l'esclavage. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Ils sont venus du monde entier se rassembler là-bas pour ce jour-là. Oh là là, vous voyez où nous en sommes? Nous ne savons pas à quel moment ça pourrait arriver. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, écoutez, vous, les vétérans de l'Église, ceux qui viennent depuis longtemps, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est quelque chose que je n'ai appris qu'hier. Je l'ai pris de l'historien Paul Boyd. Et j'ai fait des recherches là-dessus dans les Écritures. J'ai trouvé ces autres dates, là, et tout, et avec ça, j'ai fait mes recherches en suivant ça d'un bout à l'autre. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici, au temple des francs-maçons, là où il y a l'Église de Christ aujourd'hui, un matin d'avril, avant de quitter la maison, je consacrais ma voiture. Je m'étais procuré une voiture modèle 33 et je la consacrais au service du Seigneur. Et dans une vision, j'ai vu le temps de la fin. Maintenant, remarquez comme c'est frappant. À l'époque, j'étais encore tout jeune. Et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait une voiture modèle 1933, là, à quoi ça ressemblait. Et je suis allé là-bas, au temple des francs-maçons, où certains d'entre vous, les vétérans ici, vous vous en souvenez. C'est écrit sur un vieux bout de papier que j'ai chez moi. Ça a déjà été imprimé, et ça a fait le tour du monde, voyez? C'était en 1933. Et j'avais prédit qu'une grande tragédie atteindrait les États-Unis avant ou d'ici à l'an 1977. Combien se rappellent m'avoir entendu dire ça? Regardez les mains, certainement. Maintenant, regardez bien, j'avais prédit sept choses qui devaient encore arriver pour faire, avant que cette grande ruine ou que cette grande chose arrive ici aux États-Unis, quelque chose de vraiment horrible. J'ai dit, souvenez-vous là, c'était avant qu'elle éclate. J'ai dit qu'on entrerait dans une deuxième guerre mondiale. Combien se rappellent m'avoir entendu dire ça? Dites Amen. Très bien. Une deuxième guerre mondiale. J'ai dit, le président actuel. J'ai recopié ça de mon ancien écrit, là, de mon vieux bout de papier, hier. Le président que nous avons actuellement, et c'était... Combien se rappelle qui c'était? Franklin D. Roosevelt. J'ai dit, le président qui est en poste actuellement sera même élu pour un quatrième mandat. À l'époque, c'était son premier. Sera élu pour un quatrième mandat, et nous serons entraînés dans une deuxième guerre mondiale. J'ai dit, le dictateur qui s'élève maintenant en Italie, c'est-à-dire Mussolini, il va prendre le pouvoir et il ira en Éthiopie et l'Éthiopie tombera devant lui. Il y a des gens assis ici en ce moment qui savent qu'un groupe de gens était venu là. Quand j'ai fait ma réunion là-bas à la salle Redman, ce soir-là, quand j'ai dû aller là-bas prêcher ça à la salle Redman, et ils allaient m'expulser de la salle pour avoir dit une chose pareille. Oui, Madame Wilson, je sais que vous... C'est vrai, quand j'ai dit ça. Mais est-ce qu'il l'a fait? Mais, j'ai dit, sa fin sera honteuse. Et elle l'a été. Lui et la femme avec qui il vivait ont été pendus à une corde, la tête en bas, dans la rue avec les pieds en l'air et les vêtements qui pendaient. Bien, celle-là s'est accomplie. Après ça, j'ai dit, les femmes ont obtenu le droit de vote, ce qui est absolument une honte pour ce pays. Et par leur vote, un jour, elles éliront l'homme qu'il ne fallait pas. Et c'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Oh là là, là là. 4. J'ai dit, le progrès de la science sera tel que... Non, ici ça, c'est la troisième. Excusez-moi. Voilà la suivante, là, la quatrième. J'ai dit, nous irons en guerre contre l'Allemagne. Elles construiront une grande place en béton, une fortification, là, et les Américains se feront battre à plate couture. Le Dieu Tout-Puissant, devant qui je me tiens en ce moment, le sait. J'ai vu ces nazis indépendants qui lançaient des coups de pied aux Américains, comme ça, et tout, près de ce mur. Et il y a beaucoup de gars ici qui ont été à la ligne Siegfried et qui savent comment c'était. Et souvenez-vous, ça, c'était 11 ans avant la construction de la ligne Siegfried. Est-ce que Dieu est véridique? Est-ce qu'il prédit encore des choses? Regardez bien, ça, c'était la quatrième. Maintenant, la cinquième chose. Le progrès de la science sera tel qu'on fera une voiture qui n'aura pas besoin d'être conduite avec un volant. Et les voitures continueront à prendre la forme d'un œuf, jusqu'à la ruine, le temps de la fin. J'ai vu une famille américaine s'en aller en voiture sur une route large, le dos tourné à l'endroit où il devrait y avoir le volant. Il m'a semblé qu'ils jouaient aux échecs ou aux cartes. Et on l'a, c'est à la télévision. Popular Science, ou plutôt Popular Mechanics, ils la montrent tous. Cette voiture, on l'a, elle est commandée par télécommande, par radar. Ils n'auront même pas besoin d'avoir un volant dedans. Vous n'avez qu'à composer le numéro au cadran, comme vous faites pour composer un numéro de téléphone, et votre voiture vous y emmène tout droit. Il ne peut pas y avoir d'accident ni rien. Il n'y a pas d'autre voiture. L'aimant éloigne toutes les autres de vous. Voyez? Ils l'ont. Oh là là, pensez-y. La prédiction a été faite 30 ans avant que ça arrive. Bon, là, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Et avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Mais ce pays, c'est le pays de la femme. Le nombre de cette nation, en prophétie, c'est 13. Elle a 13 bandes, 13 étoiles. Elle a débuté avec 13 colonies. 13, 13, tout est par 13. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle est 13 et c'est le pays de la femme. Les tribunaux de divorce de l'Amérique émettent plus de divorces à cause de nos femmes que tous les autres pays. Dans notre pays, les mœurs et les divorces sont pires qu'en France ou en Italie, où il y a la prostitution dans les rues. Alors, mais elles, ce sont des prostituées. Chez nous, ce sont des femmes mariées qui essaient de vivre avec plusieurs hommes et plusieurs hommes mariés qui essaient de vivre avec d'autres femmes. Dans les pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant, la polygamie, c'est mal, nous le savons. Mais c'est juste pour vous montrer comme nous sommes dégénérés. J'ai une coupure de journal, là, où il est montré que quand nos jeunes Américains sont allés outre-mer pendant la dernière guerre, il y avait plus de... Je crois que c'était autour de 70%. Oh, attendez une minute, là. Je crois que c'était 3 sur 4 de ceux qui étaient partis outre-mer, dont la femme avait divorcé d'avec eux avant qu'ils ne soient revenus. Et en gros caractère, la manchette dit « Que sont devenues les mœurs des Américains ?» Vous vous souvenez d'avoir vu ça? Vous l'avez tous vu, je pense. Que sont devenues les mœurs des Américaines? Dans les usines, elles travaillent là, avec d'autres hommes. C'est le pays de la femme. Qu'est-ce qu'elle va avoir? Un dieu femme ou une déesse. Et puis, après, là, je me suis retourné, j'ai regardé, et j'ai vu les États-Unis brûler comme un tas de braises. Les rochers avaient éclaté, et ça brûlait comme un brasier de bûches, ou quelque chose y avait mis le feu. J'ai regardé, et aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée. Alors, la vision m'a quitté. 5 sur les 3 se sont produites, ou plutôt, 5 sur les 7 se sont produites. Et voici qu'il est montré, et puis j'ai prédit. Je n'ai jamais dit que c'est le Seigneur qui me l'avait dit. Mais ce matin-là, dans l'église, j'ai dit, du train où vont les choses. Je suis allé jusqu'au bout du mur, puis je suis retourné jusqu'à l'autre bout du mur. J'ai dit, du train où vont les choses. Je prédis que le moment, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je prédis que tout ça, ça arrivera entre maintenant même, 1933 et 1977. Et sans savoir, Dieu connaît mon cœur, je ne l'ai pas su avant hier, que 1977, c'est le jubilé, et qu'il se sera écoulé exactement le même espace de temps que ce qu'il avait donné à Israël et tout à la fin. Alors nous sommes, et là nous voilà à la fin de l'âge, la 70e semaine qui est sur le point de commencer. Nous ne savons pas à quel moment l'Église partira. Oh là là, qu'est-ce que nous pouvons faire, mes amis? Où en sommes-nous? Voyez-vous ce que nous sommes maintenant? Comprenez-vous la 70e semaine de Daniel maintenant? Voyez maintenant, quand nous continuerons pour aborder les sceaux et ces choses-là, quand nous ouvrirons ces sceaux, le premier qui arrive, c'est un cavalier sur un cheval blanc, et il a un arc à la main. Observez qui est ce type. Observez ce cheval d'une couleur pâle qui arrive juste après lui. Voyez? Observez qui c'est, et regardez de quelle façon ils arrivent. Observez ces 144 000 qui arrivent. Observez cette Vierge endormie quand elle arrive. Et puis, observez toutes ces choses qui se produisent, les coupes qui sont versées, les malheurs, les trois esprits impurs comme des grenouilles. Observez ces choses, comme elles s'intègrent dans les fléaux, au moment même où ils sont déversés. Chaque fois qu'un sceau est ouvert, un fléau est déversé et une destruction arrive. Et observez ce qui arrive tout de suite à la fin. Et oh, observez ces trois prophètes, ou ces deux prophètes quand ils apparaissent, là. Et au milieu de la semaine, ils sont retranchés, comme ça. Et c'est là que s'engage le combat d'Armageddon. Alors c'est Dieu lui-même qui se met à parler. Alors c'est lui qui se lève et qui se mêle au combat. Ces prophètes frappent la terre. Ils prêchent le nom de Jésus-Christ. Ils baptisent de la même manière. Ils font la même chose que les premiers pères de Pentecôte ont fait, et nombreux sont ceux qui les suivent. Mais ce qui a été réuni dans cette confédération, cette organisation, elle a continué tout droit, et même la puissance de ces prophètes ne l'a pas brisée. Et ils finissent par dire, on va tout regrouper en une seule organisation. Et il fait entrer, quoi donc? L'abomination, le catholicisme romain, qui se répand à l'extrême dans tout ça, qui cause la désolation. L'abomination qui cause la désolation, s'empare de tout, la souillure. Vous vous souvenez de la vieille mère prostituée, qui était assise sur la bête, qui était vêtue d'écarlate comme ça, qui avait 7 têtes et 10 cornes? Vous vous en souvenez? Elle tenait dans sa main une coupe remplie de la souillure de son abomination. C'était sa doctrine qu'elle répandait chez les gens. Et voilà, mes frères, nous sommes au temps de la fin. Petits enfants, on ne sait jamais. Peut-être qu'on ne vivra pas assez longtemps pour revenir ce soir. Peut-être qu'on ne vivra pas assez longtemps pour se revoir, je ne sais pas. Mais la fin est tellement proche. La fin approche tellement. Voici le passage de l'Écriture. On a vraiment la preuve absolument parfaite par l'Écriture. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, écrivez-moi une note et faites-le-moi savoir. Voyez, dites quelque chose. Certains d'entre vous, les frères là-bas, à l'écoute des bandes, aux autres endroits, s'il y a quelque chose en quoi je puisse vous aider, faites-le-moi savoir. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et il se peut que je ne sois pas d'accord avec votre organisation, pas avec vous, mais avec le système de votre organisation. Je ne suis pas en désaccord avec les catholiques. Je ne dis pas que je n'aime pas les catholiques, que je n'aime pas les gens qui sont dans les organisations. Ce n'est pas ça. J'aime tout le monde, mais je ne suis pas d'accord avec ce système qui vous tient lié. C'est ça qu'il y a, le système, là, voilà. Je n'étais pas contre l'Allemagne, c'était le nazisme. Je n'étais pas contre les Italiens, c'était contre le fascisme. Et souvenez-vous, j'avais fait une autre prédiction à l'époque. Une simple prédiction, et beaucoup d'entre vous, les vétérans, vous vous en souvenez. J'avais dit, il y a 3 grands ismes qui essaient de s'emparer du monde aujourd'hui. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qu'ils finiraient tous dans le communisme. Et je vous avais tous fait répéter ça. surveiller la Russie. Vous vous souvenez de ça? Surveiller la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Ensuite, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme, au temps de la fin. C'est tout à fait exact. Ça, c'est au combat d'Armageddon, plus loin ici, quand Christ lui-même revient. Mais ces trois prophètes, ou plutôt ces 3 ans et demi, c'est Apocalypse 11:3. Vous l'avez lu bien des fois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Ça fait combien? 1260 jours? 3 ans et demi. Ensuite, ils seront tués dans la rue, en plein milieu de la 70e semaine. Alors, vous voyez où sont les 70 semaines de Daniel? Vous voyez où nous vivons? Nous sommes à la fin, mes chers amis. Nous sommes à la fin. Les jours... Les nations se disloquent, Israël se réveille. Signes annoncés par les prophètes, nous en sommes là. Les jours des nations sont comptés, ici. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Chantons-le. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Oh là là, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Nations are breaking, Israel awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. Ensemble maintenant. A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Je vais vous en chanter un petit couplet. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. They're making some third person. Ils font de lui une troisième personne. Vous le savez. Mais il ne l'est pas, il est notre Dieu. N'êtes-vous pas heureux? Revenons au message, frère. Revenons à l'original. Revenons à la Pentecôte. Revenons à la vraie bénédiction. Revenons au nom de Jésus-Christ. Revenons au baptême du Saint-Esprit. Revenons aux signes et aux prodiges. Revenons à la Pentecôte. Balançons l'organisation. Revenons au Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. For the day of redemption's drawing near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isn't that wonderful? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le prophète a dit? Il viendra un temps où il fera, on ne pourra dire ni jour ni nuit. Regardez comment ça a été, voyez? Oh, pas beau du tout, tout au cours des âges de l'Église. Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. Hallelujah. These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one. Hallelujah. It shall be light all the other in the evening time. The past
the glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in, for the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Pas trois, mais un. Revenons au message, revenons au commencement, revenons à ce que Paul enseignait, revenons au baptême, à la façon dont lui, il baptisait. Il a vu des gens qui s'étaient fait baptiser de l'autre manière. Il leur a dit de venir se faire rebaptiser. Il a dit, si un ange du ciel venait prêcher autre chose, qu'il soit anathème. Donc revenons au message, mon ami. C'est le temps du soir. Oh, je l'aime tellement, pas vous? Combien voient les 70 semaines de Daniel maintenant et voient ce qu'est cette 70e semaine? Combien le croient? Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui doit venir ensuite? Les sept sceaux maintenant. Nous les aborderons sans tarder quand le Seigneur le permettra. Quand ce sera, ça je ne sais pas. Quand il jugera bon de la porter, à ce moment-là, nous entrerons là-dedans. Alors, nous ferons une longue, longue réunion, parce qu'il faudra prendre du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19 pour voir tout ça. Et vu la lenteur avec laquelle j'avance. Maintenant, je ne voudrais pas que qui que ce soit reparte en ayant mal compris ceci. La bande est encore en marche. Je ne voudrais pas que qui que ce soit comprenne mal. Ne comprenez pas mal maintenant en disant « Frère Branham a dit que Jésus allait venir en 1977. Je n'ai jamais rien dit de tel. Il se peut que Jésus revienne aujourd'hui. Mais j'ai prédit qu'entre 33 et 77, il arriverait quelque chose, que ces choses que j'ai vues arriver dans la vision se produiraient. Et cinq d'entre elles se sont déjà produites. Et je crois qu'avec les choses atomiques qu'on a maintenant, et avez-vous vu ce que notre président vient de dire? Il veut encore une guerre. Il veut faire de Berlin un exemple, qu'il a dit. Il veut faire un exemple. Qu'en est-il de Cuba, juste la porte à côté? Pourquoi ne pas faire un exemple de ça? Qu'en est-il de ça? Oh, ça n'a vraiment pas de sens, voyez? Oh frère, nous sommes tout simplement à la fin. Ils vont, ça va se terminer exactement comme Dieu l'a dit. Alors, à quoi ça sert de faire autre chose que de lire simplement ce qu'il a dit et de se mettre en ordre? Et de se préparer pour ça. Que la chose arrive, à ce moment-là, nous l'attendons. Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Combien sont prêts? Levez la main. Oh là là.
Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in him. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. Thank you.
là là, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Pensez un peu, les amis. C'est ça, la Pentecôte, c'est l'adoration. C'est ça, la Pentecôte. Chantons-le en tapant des mains, les pentecôtistes. Tout le monde, déraidissez-vous maintenant. Débarrassez-vous de ce vieux formalisme méthodiste-là. Allons, chantons-le. L'aimez-vous? Très bien, je l'aime. Je l'aime, Sir Gibbs. Oh, levons simplement les mains vers lui maintenant.